pourtant, on a élargi la programmation, donc ce qui était peut-être imprudent. En tout cas, on vous remercie d'être là jusqu'ici. Enfin, il y avait un peu plus de monde hier quand même, et puis il y avait des débats très intéressants. Donc, il n'y a pas de raison que les débats intéressants ne se poursuivent pas. Et on a abordé... Bon, hier, on a essayé de parler de la consommation, mais aussi en introduisant la question des classes sociales, des rapports sociaux, qui est souvent un peu oublié dans la manière, en tout cas médiatique, d'aborder les questions de consommation. Et puis, les circuits courts hier matin avec la Confédération paysanne, et puis des aspects historiques, philosophiques, voilà. Donc on a déjà abordé toute une série de questions. Et on a déjà abordé les questions de coopération, mais de manière un peu incidente jusqu'ici. Donc l'objectif de cet échange de ce matin, c'est de revenir sur toute cette part qui est très liée à l'histoire du mouvement ouvrier et qui concerne la construction de rapports de coopération, de rapports de solidarité mutuelle entre les salariés, et qui date de l'origine du mouvement ouvrier, en fait, hein, depuis enfin, les origines du mouvement ouvrier, c'est notamment les sociétés de secours mutuels au 19e, et où d'emblée se pose la question à la fois de changer la condition et conditions de vie des ouvriers, mais aussi les rapports de pouvoir, mais aussi de répondre directement aux besoins des uns et des autres en s'organisant pour déjà transformer la réalité sociale par soi-même, hein, en s'auto-organisant. C'était dès le départ dans l'air, et là, il y a eu un débat même sur... bonjour. Un débat sur la prévalence, l'importance, la centralité de ces questions-là. Chez les anarcho-syndicalistes, qui étaient les créateurs de la CGT, c'était même la question centrale, l'auto-organisation. Mais même chez les socialistes, les communistes, etc., il y avait toujours... Le fait que le mouvement ouvrier devait marcher sur plusieurs pieds. Ça, il y a tout un renouveau ensuite dans l'entre-deux-guerres, des coopératives. D'ailleurs, chez les sociologues, c'est aussi une période connue par le fait que des grands sociologues illustres comme Marcel Mauss se soient engagés dans les coopératives de consommation et qu'ils les théorisaient en faisant le lien avec ses travaux sur les peuples primitifs et sur la construction des solidarités sociales par l'échange. Et puis, après la guerre, évidemment, tout ce qui avait été porté depuis un siècle dans les luttes sociales, sur les aspirations à l'extension des régimes de protection, etc., la sécurité sociale, tout ça, c'est... mais aussi les formes de la possibilité pour les salariés de s'émanciper des rapports de travail, y compris au sein de l'entreprise. Ça a été la... Une question qui avait été beaucoup débattue au moment du Front populaire, mais qui reviennent après la guerre avec les comités d'entreprise, notamment. Voilà, donc il y a eu toute cette aspiration. Et en même temps, on sait que souvent, les coopératives, les mutuelles sont devenues des gros trusts bureaucratiques. Enfin, ça a été les premières critiques qui pointent dans les années 60, 70, 80, c'est contre ça, contre le fait que est-ce que les coopératives et les mutuelles, ça a encore à voir avec les objectifs initiaux. Évidemment, la situation, la question même de la démocratie est posée dans la sécurité sociale. Dernières élections, à la sécurité sociale en 83, que peut-être beaucoup d'entre vous ici ont oublié ou ignorent, ont été l'occasion de redébattre de comment est-ce qu'on peut, nous, citoyens, s'approprier les enjeux de la sécurité sociale. Donc c'était des questions extrêmement vives. Et puis après, évidemment, il y a eu tout le néolibéralisme qui a mis toutes ces organisations mutualistes, coopératives en porte-à-faux. Et certaines d'entre elles se sont fondues, d'ailleurs, dans le nouvel air du temps. Voilà. Donc quand j'ai rencontré Alain Perrotte pour préparer cette table ronde de ce matin, il m'a dit un truc dans ce style-là. J'ai noté ça quelque part. Il y avait quelque chose encore à faire. Il était à la fois très critique par rapport à l'évolution du mutualisme et en même temps convaincu du fait que de la mutualité, du principe même de la mutualité, il y avait encore beaucoup à tirer et que la question était encore très actuelle aujourd'hui. Donc pour en discuter, il ne faut pas que je sois trop long. Donc nous avons autour de nous donc Alain Perrotte, qui est responsable de l'Institut d'histoire sociale de la CGT de la Vienne, très engagé dans la mutualité. syndicaliste des PTT, c'est ça, à l'origine, qui a été responsable de la formation syndicale, qui s'est occupé des questions sociales, qui s'est occupé du secteur de la protection sociale à la CGT. Voilà, la mutualité, j'ai retrouvé la phrase, la mutualité a une force dont elle ne se sert pas. Voilà, non, c'était ça, c'était plus précis que ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est une force qui est souvent dans le compromis et qui est souvent méconnue et en même temps qui a peut-être plus de force qu'elle ne le pense elle-même. Voilà, c'est ça qui m'avait semblé tout à fait intéressant. Et donc, à ma gauche, Gilles Kerr, maître de conférence HDR en sciences économiques à la faculté de droit de l'Université de Poitiers, agrégé de sciences sociales. Il dirige le master droit et développement de l'économie sociale et solidaire, qui forme des chargés de mission et des cadres qui travaillent dans les associations, les coopératives ou les mutuelles. Il est membre du Centre de recherche sur l'intégration économique et financière et spécialiste de la protection sociale et du tourisme. Il a de nombreuses publications à son actif, et en particulier un ouvrage publié en 2013 en co-direction sur l'économie sociale et solidaire et le travail, qui nous place un peu au cœur de la question qu'on voulait discuter ce matin. Donc je crois que c'est Alain Perrot qui va parler d'abord, et puis ensuite Gilles Kerr, et puis ensuite il y aura un échange avec la salle.
Bien. Alors tout d'abord, je n'ai pas forcément l'habitude d'intervenir dans ces manifestations, donc il y aura certainement des approches qui ne sont pas habituellement traitées. Donc, mesdames, messieurs, je vais vous raconter une histoire, une belle histoire, car c'est le fruit d'un travail collectif, c'est le résultat d'un engagement fort de millions de personnes au service des autres. Comment, d'une société rurale avec un peuple exploité, sommes-nous arrivés à cette organisation solidaire qu'est la protection sociale à la française ? L'objectif de mon intervention est d'appréhender l'apport de celle-ci dans une économie sociale et solidaire. Nous avons besoin, pour ce faire, de savoir d'où elle vient, quelles sont ses composantes et surtout son avenir dans une société axée aujourd'hui sur l'individualisme et le repli sur soi. Il y a des origines lointaines. Le besoin de se protéger contre les risques est ancien. Il a longtemps été renvoyé à la charité, à la solidarité familiale, dont les limites apparaissent rapidement. C'est un besoin antérieur au mode de production capitaliste. Dans les sociétés anciennes, avoir beaucoup d'enfants constituait la meilleure garantie des vieux jours. La solidarité entre les générations était assurée à l'intérieur de la famille. Les collectivités religieuses vont quadriller l'Europe d'un réseau d'hôpitaux et d'hospices. Les corporations et le compagnonnage organiseront la solidarité, ainsi que les nobles, les propriétaires terriens, les artisans eux-mêmes nourrissaient et logeaient leurs serviteurs, les vieux travailleurs et leurs ouvriers. L'État monarchique créa sous le Saint-Louis l'hôpital des 15-20 et sous Louis XIV les Invalides pour les militaires. Ces activités se placent sous le signe de la charité et de l'assistance. Sauf pour les corporations où existe une notion de solidarité. Au total, la réponse aux risques subis par les populations restait faible, aléatoire, sauf pour les mines, la marine non royale et l'armée. La première réponse cohérente au problème de la pauvreté vient de l'Angleterre élisabéthaine. Précurseur avec ses lois successives, donnant aux pauvres une certaine protection. La plus importante de ces lois date de 1601 et demeure en vigueur jusqu'en 1834. Elle confère un droit à l'assistance à tous les membres d'une paroisse et à celle-ci l'obligation de l'assister en argent s'il s'agit d'un enfant ou d'un invalide. Sous forme de travail, s'il s'agit d'un indigent valide, que ce soit à domicile ou dans des ateliers collectifs, ce droit est remis entre les mains de l'Église et des notables, celui qui refusait d'exécuter le travail relevait de la prison. Cette réglementation permettait non seulement d'entretenir les pauvres, mais de neutraliser les déviants et tenter de les intégrer dans le monde du travail. On réprimera la mendicité, la stigmatisation de l'état de chômeur associé à la paresse, situation qu'on connaît fort bien aujourd'hui, fait partie de l'héritage de ces pratiques. Au total, la pensée libérale du XIXe siècle s'opposa à toute aide systématique destinée à compenser les risques sociaux, alors que la liberté du travail et la concurrence contribuaient à augmenter le nombre des indigents. Le travail devient une marchandise. C'est l'enfer du paupérisme. Le gâchis de force de travail va finir par nuire à l'exploitation capitaliste qui exige une force de travail stable, en bonne santé. Traduction du libéralisme de la bourgeoisie montante de sa conception individualiste, la Révolution française condamnera les associations ouvrières, le corporatisme et la fameuse loi Le Chapelier ne reconnaît pas vraiment les sociétés de secours mutuel. Elle ne nie pas qu'elles puissent être utiles, mais elle considère que c'est au pouvoir public, à la nation, de fournir des travaux à ceux qui en ont besoin et des secours aux infirmes. Un siècle s'écoulera entre la définition du principe de solidarité sociale et son application, timidement énoncée dans la Déclaration des droits de l'homme de 1793, pardon. J'étais en avance sur la Révolution. Timidement énoncée dans la Déclaration des droits de l'homme de 1793 en France. La première mise en œuvre aura lieu d'abord en Allemagne par Bismarck dans les années 1880. En France, il existera une forte résistance des libéraux les plus dogmatiques. Ils n'admettent que des mesures restreintes de bienfaisance publique. Les premières formes de protection sociale seront des créations ouvrières. C'est l'invention d'un mécanisme de solidarité, la nécessité de dépasser les limites du salaire à partir de la conscience d'une même situation devant les risques, telle la maladie, les accidents du travail qui étaient fréquents à cette époque. Les risques, ce sont aussi la perte de l'emploi et les maladies. Beaucoup sont professionnels. La vieillesse est redoutable, souvent accompagnée d'invalidité, d'une mort désespérée à l'hospice. En réaction vont naître les sociétés de secours mutuels. La mutuelle traduit une première avancée de la conscience sociale. L'État ne peut s'y opposer en raison de leur objet et de leur caractère pacifique. Elles se créeront sous la Convention, le Directoire, le Consulat, l'Empire. À la veille de la Révolution de 1830, les mutuelles se multiplient. Le point d'appui que constitue la mutuelle pour soutenir des actions de grève et de solidarité traduit une volonté de résistance et d'indépendance. Échappe à l'aliénation de la charité pratiquée par l'Église et la bourgeoisie et l'expression d'une solidarité qui s'élargit à de nouvelles pratiques. Pas de lumière.
Déjà que j'y vois pas beaucoup.
Excusez-moi. Je sais pas où j'en étais. Voilà. Non, c'est bon. On va s'en sortir. Ces processus objectifs et subjectifs sont liés. Sans tomber dans un déterminisme réducteur, ils accompagnent la formation de la classe ouvrière.
Non, mais c'est bon. Vous allez.
Non, regardez, tout ce qu'il faut. Super. Je vous remercie. Vous êtes gentil avec les vieux.
On commence à savoir aussi ce que c'est. Ouais. Ah.
C'est ça. Voilà. On m'entend pas là ? Si.
C'est la pure obligatoire.
Maintenant, il faut que je retrouve où j'en étais. L'État, après avoir tenté d'entraver leur essor dans le Premier Empire, ne va pas tarder à vouloir contrôler les mutuelles. Dans ces formes d'organisation pré-syndicale s'opère un apprentissage de la solidarité et son dépassement. Les progrès de la conscience sociale vont grandir, de la solidarité à la résistance et à la lutte organisée. on va vers la chambre syndicale et le syndicat de lutte de classe. La mutualité habituera les travailleurs à discuter de leur intérêt commun. Elle va les conduire à se concerter pour résister aux empiétements du capital. La mutuelle est sélective à cause des cotisations. Ce sont sans doute les ouvriers des métiers qui y adhèrent car ils disposent relativement de plus de moyens et ont un peu plus conscience des incertitudes de l'existence. On peut en effet estimer qu'à partir du moment où les besoins d'entretien les plus élémentaires, nourriture, vêtements, habitation, qui constituent alors l'essentiel des budgets ouvriers, sont un peu moins mal satisfaits, naissent ou se développent d'autres besoins. Le patronat va dès lors s'intéresser à ce processus d'évolution des mentalités et des besoins sociaux pour le limiter, le contrôler, l'utiliser, tenter d'endiguer le mouvement qui porte vers le syndicalisme et le socialisme, même si celui-ci n'en est encore qu'à ses débuts. Ces interventions qui n'excluent pas la répression sont aussi celles du gouvernement. Elles vont générer les tentatives de détournement de la mutualité et la création des œuvres sociales patronales. C'est le paternalisme social. Le mot apparaît au tournant du XIXe siècle et comme on le sait, il désigne l'octroi discrétionnaire d'une protection sociale de services associée à une volonté de contrôle social. Il se développera dans les grandes entreprises, l'effet de concentration favorisant la compréhension d'intérêts communs et de puissance sociale des ouvriers, comme chez Michelin, Peugeot, dans les grandes firmes de la métallurgie, voire dans certaines régions comme à Mulhouse pour le textile. Les efforts du patronat pour constituer des œuvres sociales sont notables. Robert Pinault, grand commis du patronat, qui avant-guerre joua un grand rôle au MEDEF de l'époque, écrira « Les industriels considèrent le patronage comme un devoir social et comme le meilleur moyen à employer pour s'assurer une main-d'œuvre stable et dévouée. » Surtout dévouée. Dès lors, les lois se succéderont à un rythme peu soutenu. Mais tenant compte du rapport de force naissant, l'État et les députés proposeront et débattront d'une protection sociale pour les ouvriers. Malgré une longue résistance et une obstruction constante de la droite et de certains lobbies, les médecins, le Sénat, enfin tous ceux qui étaient pas du côté des salariés de l'époque, leurs arguments sont ceux du libéralisme. Coûts trop élevés pour les entreprises, atteinte aux droits individuels. Je pense que cela vous rappelle quelques phrases que l'on entend souvent dans cette période. Ce sont quand même des arguments d'actualité. Mais déjà, ils étaient dans l'actualité à cette époque-là. Donc, à un train de sénateurs, les projets de loi se succèdent. Proposition de loi Martin Nadeau du 29 avril 1880 sur les accidents du travail. Vote de la loi le 9 avril 1898. Vous voyez, on n'était pas pressé à cette époque-là, 18 ans. Proposition sur la retraite ouvrière et paysanne du 18 juillet 1890. Vote de la loi le 5 avril 1910. Dépôt du projet de loi sur les assurances sociales en mars 1921. La première loi est de 1928 et ne sera véritablement instaurée qu'en 1930. Certains veulent un financement seulement par l'État, étant donné le bas niveau des salaires. Les campagnes de presse contre la loi se multiplieront. Le journal de Michelin traitera la loi sur les assurances sociales de « loi folle ». Les allocations familiales ont une histoire spécifique. Les allocations familiales ont donc une histoire spécifique. On trouvera déjà des allocations de ce type dans l'arsenal du paternalisme. Attraction et fixation de la main-d'œuvre en sont des déterminations fondamentales. Elles seront introduites entre 1897 et 1913 dans certains secteurs publics sous forme de supplément familial au salaire. Les contributions indirectes, l'administration centrale des finances et des colonies, les militaires de carrière, les instituteurs, les postiers. Elles sont aussi, dans le privé, l'œuvre de patrons influencés par le christianisme social, par des conceptions familialistes et démographiques, par une conception patriarcale de la famille et une morale qui veut cantonner les femmes aux tâches ménagères. Le gouvernement va étendre le système après 2 ans de gestation de la loi du 11 avril 1932. Il s'agira des caisses d'affinité. L'adhésion aux caisses est libre, les prestations services sont différentes, ainsi que les modes de gestion. Le mouvement de création de caisses va se développer, mais il rencontre, venant du milieu patronal, des objections et des obstacles que la crise économique va accentuer. Les différences de traitement entre les salariés couverts ou non couverts par des caisses deviennent insupportables. La concurrence s'exaspère du côté du capital. La logique de la compensation appelle l'obligation légale. Après de longs débats, elle va être instituée. Elle met le pouvoir de contrainte au service d'institutions contrôlées par le patronat. Les caisses gardent pour l'essentiel leur liberté d'organisation, de gestion, de réglementation des prestations sociales et de l'action sociale qu'elles ont développée. Elles ne peuvent plus cependant se prévaloir aussi facilement d'être une libéralité patronale. Cette loi sera appliquée non sans vicissitudes et même avec certains rejets et dissidences venant du patronat. Depuis 1930, les assurances sociales offrent en France une protection contre les conséquences de la maladie, de l'invalidité et du décès, ainsi qu'une indemnisation pour la maternité et un droit à la retraite. Le système, dans un premier temps, ne concerne que les salariés payés en dessous d'une certaine somme. C'est le système du plafond que l'on connaît encore aujourd'hui. Il concerne les personnes jugées incapables de faire preuve suffisante de prévoyance individuelle. Le plafond est toutefois fixé assez haut pour correspondre au salaire maximum d'un ouvrier qualifié. Il sera supprimé en 1942 pour les seuls ouvriers. Les assurances sociales avaient 7 millions de cotisants à la Libération et un effectif de bénéficiaires sans doute 2 fois supérieur si l'on tient compte des ayants droit et des jeunes. Le financement est assuré par une cotisation de 8% des salaires retenus à la source, c'est-à-dire 4% pour les salariés et 4% pour les patrons. 80% des frais médicaux sont pris en charge par le système. Une indemnité journalière est versée en cas d'absence pour maladie. Elle est théoriquement de 50% du salaire. Les retraites sont basées sur la capitalisation. Les sommes versées seront mises à la disposition de l'économie par le truchement de la caisse de dépôt et de consignation. Les fonds sont utilisés pour acquérir les créances sur les actifs destinés à financer les pensions. Le système, basé sur la capitalisation des versements, a l'inconvénient grave de reporter à un terme lointain la liquidation des pensions à taux plein. On parle de 1930, ça repousse à 1960. Vous voyez que il y avait... alors que l'espérance de vie était de 45, était en dessous de 50 ans à cette époque. Donc c'est pour ça qu'on disait que c'était une retraite pour les morts, parce que vous ne risquez pas de la toucher, de la percevoir. Devant les insuffisances du système en 1941, après une tentative avortée de Daladier en 1939, un dispositif complémentaire sera créé, c'est l'AVTS, allocation aux vieux travailleurs salariés. Parallèlement, on l'a vu, à la création des assurances sociales seront instituées à l'initiative du patronat les allocations familiales au bénéfice des salariés chargés de famille. Les accidents du travail sont considérés comme un risque industriel. Depuis la loi de 1898, un système de réparation forfaitaire est à la charge exclusive de l'employeur. Celui-ci peut s'assurer ce qu'il fera, au bénéfice, bien entendu, des compagnies d'assurance. Mais les tracasseries, les modalités de cette reconnaissance entraînent un mécontentement profond des accidentés et des invalides. Au total, il s'agit donc d'un système assez incomplet. Il ne comporte pas de couverture du chômage et présente de graves lacunes. Quelles sont-elles ? Les prestations sont insuffisantes. Les conditions d'ouverture des droits restrictifs de remboursement des médicaments est limitée. Le tarif de responsabilité pour les actes médicaux est beaucoup trop bas et inférieur à celui pratiqué par les médecins. L'inflation va aggraver cette situation particulière pendant l'occupation et au lendemain immédiat du conflit. L'architecture de l'institution est un compromis qui a donné naissance à de multiples institutions. En 1944, on comptait 589 caisses primaires, maladie et maternité, 68 caisses vieillesse, au total 677 organismes en comptant les unions de caisses. La situation est analogue pour les allocations familiales avec 399 caisses de compensation. On ne saurait cacher que l'institution de ce régime de protection sociale, malgré ses limites, a eu des effets positifs. Augmentation de l'espérance de vie, soutien à la natalité, mais ils sont insuffisants et laissent place à des inégalités importantes. Nous arrivons à la création de la sécurité sociale. La maturation des idées sociales au sein de la Résistance se retrouve dans le programme du Conseil national de la Résistance qui se prononce pour un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des assurés et de l'État, et une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. En 1945, la sécurité sociale s'impose comme une pièce essentielle des réformes voulues par la nation au sortir de la Résistance. Le modèle français est un système original et constitue l'une des réalisations les plus durables issues de la Résistance. La France est sortie de la guerre particulièrement meurtrie. Les vieux cadres sont brisés. Il faut reconstruire. Il faut faire du neuf sous l'angle social comme sous l'angle économique. C'est une réaction à l'insuffisance des législations existantes. De la déjà longue histoire des assurances sociales émergeaient deux modèles, le système à la Bismarck et le système à la Beveridge. On donnera le nom d'État-providence à l'un et à l'autre. Indépendamment de sa situation professionnelle, tout citoyen doit être protégé contre tous les risques sociaux. Et la devise « payer selon ses moyens et recevoir selon ses besoins » devient la démarche officielle de la protection sociale à la française. Le système français va s'inspirer des deux systèmes précités, mais en s'efforçant de les dépasser, ce qui ne retire rien à la créativité de ses initiateurs. Pierre Larocque, qui auprès d'Ambroise Croizat, ministre du Travail, jouera un grand rôle dans l'invention du système français de sécurité sociale, s'était trouvé à Londres pendant la guerre et il y lira le rapport Beveridge. La création de la sécurité sociale par les ordonnances de 1945 est encore aujourd'hui la matrice du système français, malgré les atteintes qui lui ont été portées. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle traduit une aspiration des peuples à un ordre social de paix et de progrès social qui s'ancre dans les souffrances, dans les épreuves douloureuses du conflit. Une attention particulière doit être accordée non seulement au contexte, mais aussi aux acteurs principaux de la mise en place de la sécurité sociale. Le premier, Alexandre Parodi. Comme membre du Conseil d'État, il s'était occupé de l'application des assurances sociales avant-guerre. Hostile au régime de Pétain, il est entré dans la Résistance dès 1942 et devient en mars 1944 délégué général en France du Comité français de libération nationale. Ce haut fonctionnaire, technicien expérimenté et particulièrement qualifié, devient ministre du Travail et de la Sécurité sociale de septembre 1944 à novembre 1945. Le second, Pierre Larocque, qui a vécu 90 ans, bel âge, est un jeune collègue et ami d'Alexandre Parodi qui lui confie la refonte de la protection sociale. Pierre Larocque, comme Alexandre Parodi, s'est occupé de l'application des assurances sociales avant-guerre. Victime des lois antisémites de Vichy, il rejoint Londres en 1943 et prend connaissance du rapport Beveridge. Il est en accord avec la volonté d'ouvrir et de démocratiser le système de protection sociale, ce qui l'amène à prendre en grande considération les positions de la CGT réunifiée et du Parti communiste. Précisément, le deuxième groupe d'acteurs est constitué par les ministres communistes qui peuvent s'appuyer sur une CGT réunifiée qui constitue alors et de loin la première force syndicale du pays. Ces ministres sont d'ailleurs des militants actifs, anciens députés, qui ont eu à connaître les prisons pétainistes, en particulier à Alger. François Billoux est souvent oublié lorsqu'on évoque la naissance de la sécurité sociale. Pourtant, comme ministre de la Santé publique de septembre 1944 à novembre 1945, époque à laquelle il devient ministre de l'économie nationale, il a été l'un des signataires de l'ordonnance du 4 octobre 1945. Ambroise Croizat est certainement la personnalité politique la plus emblématique du Parti communiste en ce qui concerne la mise en place de la sécurité sociale. S'il n'a pas signé l'ordonnance d'octobre 1945, en revanche, comme ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du 22 novembre 1945 au 4 mai 1947, il a été le véritable moteur politique de la mise en place de l'institution. Il a notamment porté son texte législatif, adopté le 22 mai 1946. J'ai évoqué les relations de confiance qui existaient entre lui et Pierre Larocque, haut fonctionnaire gaulliste, qui n'a pas hésité à défendre vigoureusement dans des circonstances difficiles devant l'Assemblée nationale. Militant chevronné et homme de combat, Ambroise Croizat a constamment défendu avec efficacité le projet de loi sur la sécurité sociale, en soulignant combien il avait fait l'objet d'une large consultation et correspondant aux attentes de l'époque dans un contexte complètement différent de celui d'avant-guerre. Il devait défendre avec la même vigueur les autres avancées sociales en matière des droits des travailleurs jusqu'au renvoi des ministres communistes du gouvernement Ramadier le 4 mai 1947. Ambroise Croizat est décédé à l'âge de 50 ans à la suite d'une hospitalisation. On a justement insisté sur le rôle d'Ambroise Croizat, d'abord président de la commission du travail à l'Assemblée consultative puis ministre du travail, mais il serait injuste d'oublier les autres membres de la CGT. L'action d'Ambroise Croizat sera décisive dans la création de l'institution et se prolongera dans sa mise en place. Il sut aussi s'entourer de collaborateurs remarquables, son directeur de cabinet, maître Huillard, de Pierre Larocque et de Francis Netter, son adjoint. Tous aideront Ambroise Croizat dans le combat de la mise en place dans des délais extrêmement courts, moins d'un an pour installer la sécurité sociale. Des nouveaux organismes, entreprise réussie alors que certains attendaient et espéraient un échec. Au total, la sécurité sociale jouera un rôle positif sur la conjoncture économique et pour le maintien du niveau de vie, ce qui sera parfois oublié dans les controverses sur cette question. Ce rôle de régulateur, ses bienfaits seront sous-estimés, méconnus et contestés par les libéraux. La réduction des inégalités devant l'accès aux soins atténue la conflictualité. Elle concourt à une force de travail en meilleur état, ce qui porte les effets positifs pour la productivité. Avant même sa création, la sécurité sociale sera l'objet d'affrontements. Tout au long de son existence, ils ne cesseront de se multiplier sur l'action conjointe du patronat et du pouvoir politique. Ces attaques prendront la forme de plans particuliers pour la sécurité sociale ou de projets de loi, parfois de rapports qui feront l'objet de dispositions dans le plan français. Tous ont comme caractéristique de vouloir porter atteinte au contenu du système de protection sociale. Nous ne vous en infligerons pas la liste. Permettez-moi quand même d'en évoquer une seule. Les ordonnances d'août 1967. Elles reprennent un grand nombre des revendications contenues dans le rapport du CNPF de 1965 et renforcent la pénétration du patronat dans la gestion des caisses de sécurité sociale. L'unité du régime général de sécurité sociale est rompue. Il éclate entre trois caisses nationales, maladie, vieillesse, allocation familiale. La gouvernance est modifiée au bénéfice du patronat. Les représentants des salariés sont à égalité avec lui, alors que précédemment ils avaient la majorité. La cotisation ouvrière est augmentée et elle est assortie d'un déplafonnement partiel. Le ticket modérateur est porté à 30% pour de nombreuses dépenses. Le mouvement de mai 68 le ramènera à 25%. De nombreux médicaments ne sont plus remboursés. Le profil médical vise à limiter la liberté de prescription du médecin. Le nombre des cures thermales est diminué. La note est lourde pour l'ensemble du salariat. D'autres atteintes sont portées au régime général avant l'offensive actuelle. Son financement. Comment est financée la protection sociale en particulier et la sécurité sociale en particulier? C'est un financement socialisé d'une partie de la production de la force de travail à côté du salaire. La socialisation se fonde sur un principe de solidarité et sur une répartition visant à une certaine égalité. La sécurité sociale n'est pas pour autant un îlot de socialisme, mais une réforme démocratique. Elle n'est pas une réponse obligatoire du développement du mode de production capitaliste. Elle n'a pas toujours existé et n'existe pas dans tous les pays capitalistes sous sa forme française. Elle est le produit de l'histoire du peuple français, des luttes sociales qui, à un moment donné, modèlent le type de réponse que le capitalisme est obligé d'apporter. En fonction des rapports de force, elle joue un rôle actif sur la base économique, elle agit à la fois sur la consommation et sur la production. C'est le salaire socialisé. La cotisation n'est pas un prélèvement, une charge, un impôt, une taxe, une épargne, une assurance. C'est intégralement du salaire. Pour être plus clair et pour faire vivre les principes suivants, universalité, unicité, égalité, solidarité. Les actifs cotisent pour les inactifs, les bien portants pour les malades, les riches pour les pauvres. Avec la création de la sécurité sociale, nous avons un début de répartition des richesses créées dans les entreprises ou dans le pays. Nous sommes dans une économie solidaire. Une des réformes majeures, la direction des organismes de sécurité sociale, est profondément modifié avec l'entrée en force des représentants des assurés par le biais des syndicats dans leur gestion. Désormais, le patronat et la mutualité n'occupent plus qu'une position minoritaire. Bien plus, le rôle de la mutualité est désormais cantonné au domaine de la complémentarité. Paradoxalement, cela lui permettra un développement spectaculaire, mais cela a été vécu comme une dépossession par les notables mutualistes de l'époque. La logique d'assurance sociale est élargie à celle des droits sociaux pour tous, d'où la volonté de redonner aux intéressés la responsabilité des institutions de protection sociale. Le plan de sécurité sociale s'est ainsi appuyé sur une volonté d'émancipation du travail allant de pair avec une certaine redistribution des revenus. Il s'agit alors de rompre avec l'ordre ancien, en intégrant les salariés à la vie de la nation, de lutter contre l'insécurité sociale et le chômage tout en participant à la reconstruction du pays. De ce point de vue, la réforme ne peut être dissociée d'autres aspects comme la planification ou les nationalisations et de la volonté d'une rénovation politique et sociale. L'offensive à laquelle nous assistons contre l'existence même de la sécurité sociale n'est pas un simple épisode dans une guerre de tranchées qui a commencé avant même la création de la sécurité sociale. Les attaques constantes et atteintes à la sécurité sociale n'ont jamais cessé. Elles sont conduites par toutes les forces de droite politique et patronale conservatrices. Le lobby des assurances est toujours présent, plus ou moins visible. Ce qui serait grave serait de sous-estimer l'ampleur et les caractères de cette offensive du grand capital. Elle s'acharnera pour imposer les pseudo-solutions libérales, plus ou moins individualisées, à un système lui-même affaibli par des attaques précédentes, alors que les aspirations et les besoins collectifs exigent son développement et son extension. D'autant que l'on ne saurait oublier la dégradation du pouvoir d'achat, des prestations familiales et l'insuffisance de la couverture des risques. La sécurité sociale n'est donc pas sans défaut. Les effets de la crise ne doivent pas être sous-estimés. Réduction ou insuffisance progressive de la base salaire, part salariale dans le PIB en recul ou stagnante, donc réduction des ressources de la sécurité sociale. Prestations accrues par les effets de la crise, maladies, troubles liés au chômage, à la précarisation, à la dégradation des revenus et des conditions de travail, et j'en oublie certainement. Après les atteintes portées au régime vieillesse, il y a maintenant l'offensive contre le régime maladie qui est la cible des pouvoirs en place. L'objectif vise à introduire une sécurité sociale à plusieurs vitesses, basée sur un panier de soins, c'est-à-dire un régime minimaliste ouvrant la voie à une privatisation inspirée de la pratique des États-Unis, donc ouvert à des effets désastreux de la concurrence entre les offreurs de soins plus ou moins liés aux compagnies d'assurance, avec pour conséquence la dégradation de la qualité. Les États-Unis ont une dépense plus élevée pour la maladie qu'en France. Et pourtant, les indicateurs de santé sont médiocres. L'histoire de la sécurité sociale montre qu'elle est le résultant de longues luttes sociales et politiques. C'est toujours l'action de masse qui est indispensable pour la défense, la défendre et l'actualiser au niveau des besoins du XXIe siècle. Cela requiert une sécurité d'emploi et de formation, une sécurité sociale développée. La sécurité de l'emploi, c'est l'éradication du chômage et la capacité de faire face aux évolutions de l'emploi en fonction des mutations économiques et technologiques, de la promotion de la qualification appelée par la révolution informationnelle, qui exige un système articulant emploi et formation, excluant le rejet sur le marché du travail. C'est incontestablement le point faible des dispositifs existants. Il est pourtant essentiel aussi pour le financement et une politique de prévention des autres risques. Disons encore que la santé ne doit pas être traitée comme une marchandise. Les plus âgés ne doivent pas être considérés comme des bouches inutiles. J'en viens aux complémentaires santé. On en a un peu parlé sur les sociétés de secours mutuels, mais faisons le point un peu sur ce qui se passe aujourd'hui. Trois acteurs ont en charge la complémentaire santé en France. Les mutuelles santé, à but non lucratif, les sociétés d'assurance, à but lucratif, les instituts de prévoyance collective qui gèrent les retraites complémentaires. Deux sont à but non lucratif, une rémunère des actionnaires, les assurances. Dans mon propos, vous vous en doutez, je ne parlerai pas des assurances. C'est pas dans l'économie sociale. Même s'il y a aujourd'hui des assurances, des mutuelles d'assurance qui sont dans l'économie sociale, mais qui fonctionnent comme les assurances. Je donnerai pas de nom. Les instituts de prévoyance sont gérés paritairement par le patronat et les organisations syndicales. Leurs champs d'activité sont la gestion des retraites complémentaires et la gestion des contrats collectifs santé. Les mutuelles à but non lucratif sont les principaux acteurs de la complémentaire santé individuelle et sont devenus, par le désengagement de la sécurité sociale, un des piliers de l'ensemble du système de protection sociale. Comme nous l'avons vu au début de l'intervention, les sociétés de secours mutuels se développent et dans le même élan, la conscience de classe, l'émancipation des ouvriers permet des avancées sociales importantes pour l'époque. La mutualité habituera les travailleurs à discuter de leurs intérêts communs. Elle va les conduire à se concerter pour résister aux empiétements du capital. Ces sociétés de résistance, encore plus ou moins mutualiste, se développe de la fin de la Restauration au début de la Deuxième République. La mutuelle traduit une première avancée de la conscience sociale. Le développement du capitalisme se poursuit, les difficultés de l'existence aussi, et font que mutualité et résistance ne satisfont plus aux exigences ouvrières. On va passer de la chambre syndicale et progressivement à d'autres stades, fédéralisme professionnel et interprofessionnel, confédéralisme national et international, parallèlement à ses propres rythmes il y a formation d'une conscience politique. Le patronat va dès lors s'intéresser à ce processus d'évolution des mentalités et des besoins sociaux pour le limiter, le contrôler, l'utiliser, tenter d'endiguer le mouvement qui porte vers le syndicalisme et le socialisme, même si celui-ci n'en est encore qu'à ses débuts. Nous voyons apparaître une mutualité patronnée. Elle donne un grand rôle aux membres honoraires et aux notables, bien qu'il existe aussi des mutuelles ouvrières depuis le début du XIXe siècle et que certaines puissent s'inscrire dans un syndicalisme de service développé surtout à partir de la fin du XIXe. La transformation voulue à la Libération, le patronat mais aussi les mutualistes, dans un premier temps, vont accepter difficilement les transformations réalisées. Il faudra une évolution sensible des cadres de la mutualité, avec l'entrée en force des mutuelles de fonctionnaires et l'affirmation des mutuelles de travailleurs pour voir la mutualité devenir un des piliers de l'ensemble du système de protection sociale dans le cadre de la complémentarité. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les réformes menées par le gouvernement engendrent un désengagement de la sécurité sociale, rendant nécessaire la contraction d'une complémentaire santé. Pourtant, 22% des individus à faible revenu n'ont pas de complémentaire santé. L'âge constituant un critère de discrimination en termes de précarité, il est aujourd'hui difficile pour la jeunesse d'accéder à une complémentaire santé de qualité et donc aux soins. La sécurité sociale souffre donc aujourd'hui surtout du manque de réponse à son besoin de financement. Celui-ci passe notamment par le plein emploi, des salaires de haut niveau, une autre répartition des richesses produites, de meilleures conditions de travail. En résolvant la question du financement, nous pourrions améliorer notre système de sécurité sociale. Ainsi, celle-ci pourrait couvrir à 100% les assurés. En attendant cette évolution, il importe que tous puissent avoir accès à une mutuelle à but non lucratif, afin de pouvoir se soigner et de vivre dignement. En conclusion, ce bref aperçu de la protection sociale en France montre qu'il nous faut être vigilants sur ce qui nous rassemble. Nos plus anciens ont gagné des solidarités à des époques aussi compliquées que celles que nous vivons aujourd'hui. Nous devons être des passeurs de mémoire, rappeler d'où viennent nos acquis sociaux, avoir toujours en tête la belle devise de la République, liberté, égalité, fraternité, et j'ajouterai personnellement solidarité. Je citerai pour finir Aimé Césaire, la voie la plus courte pour l'avenir est toujours celle qui passe par l'approfondissement du passé, à vous de la prendre en compte. Je terminerai donc cet exposé en remerciant deux auteurs, Jean Magnadas et Yannick Marek, qui m'ont beaucoup inspiré par leurs travaux sur l'histoire de la sécurité sociale, et mes camarades habituels pour leurs corrections et modifications du texte. Merci à eux. Je vous remercie de m'avoir écouté.
J'aurais pu le dire en introduction, cet après-midi, on va parler de formes émergentes, de solidarité, de mutualisme, on pourrait dire des choses comme ça, de construction de rapports de coopération dans la consommation. Et au fond, je pense que voilà, merci pour ce grand rappel d'histoire sociale et en forme de bilan aussi, à la fois pour voir les liens qu'il y a entre les choses, mais enfin, je pense aussi que réfléchir à la fois à ce qui émerge et puis à notre histoire, c'est regarder à la fois différemment notre histoire et différemment ce qui émerge. En tout cas, c'est un des enjeux de la journée. Gilles.
Alors, ce que je veux traiter ici, on a justement beaucoup parlé de solidarité ouvrière, de lutte, de regroupement et également de participation de l'État. On va voir ça sous l'aspect de la consommation, puisque c'est évidemment le thème général du colloque. Et on va voir plus particulièrement autour des coopératives de consommateurs et des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise. Alors, je vais commencer par vous lire un tout petit texte, puisque le festival s'appelle Raison d'agir. Un texte qui traite, dont le chapitre dont il est extrait s'intitule La tyrannie des riches dans les républiques. et je vous le lis, les riches diminuent chaque jour de quelque chose le salaire des pauvres, non seulement par des menées frauduleuses, mais encore en publiant des lois à cet effet. Récompenser si mal ceux qui méritent le mieux de la République semble d'abord une injustice évidente. Mais les riches ont fait une justice de cette monstruosité en la sanctionnant par des lois. C'est pourquoi, lorsque j'envisage et j'observe les républiques aujourd'hui les plus florissantes, je n'y vois, Dieu me pardonne, qu'une certaine conspiration des riches, faisant au mieux leurs affaires sous le nom et le titre fastueux de république. Les conjurés cherchent par toutes les ruses et par tous les moyens possibles à atteindre ce double but. Premièrement, s'assurer la possession certaine et indéfinie d'une fortune plus ou moins mal acquise. Secondement, abuser de la misère des pauvres, abuser de leurs personnes et acheter au plus bas prix possible leur industrie et leur labeur. Et ces machinations, décrétées par les riches au nom de l'État et par conséquent au nom même des pauvres, sont devenues des lois. Alors, en dehors de l'actualité vraiment très liée à la présidentielle de ce texte, je voudrais souligner l'ancienneté de ce texte. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer de quand il date. Vous diriez des décennies, un siècle ? C'est beaucoup plus ancien que ça, ça a 500 ans. C'est Thomas More, l'Utopie, 1516. C'est beaucoup plus ancien que ça. Et alors, bien souvent, on présente Thomas More comme étant quelque part peut-être l'un des premiers communistes. La tyrannie dans les républiques, hein, c'est quand il regarde la République italienne à laquelle il songe. Mais bien souvent, on aborde ce genre de problématique à travers les luttes dans les lieux de production, sur l'organisation de travail, sur la rémunération, sur la protection sociale. Et moi, je vais aborder ce thème, hein, ce que j'ai mis en rouge, l'abus de la misère des pauvres par les riches sanctionnés par des lois. Je vais l'aborder sous l'angle de la consommation ici. Et donc, on va l'aborder à travers deux exemples. Je vais procéder par touche, hein, je ne vais pas développer pour rester dans mon temps de parole. Je vais procéder par touche, et puis si vous avez des questions plus spécifiques sur les exemples que je vais citer, n'hésitez pas après dans le débat à intervenir. Alors, sur ce premier aspect, je m'inspire beaucoup d'un travail auquel j'ai participé. C'est un travail collectif dans le cadre de l'inventaire Poitou-Charentes sur l'histoire des mouvements coopératifs et mutualistes de Poitou-Charentes depuis le 19e siècle. C'est un travail qui a été réalisé à quatre. Qui date pour la rédaction écrite qui date de 2013, mais qui est entièrement disponible sur le site de l'inventaire Poitou-Charentes, totalement gratuitement, à la fois sous la forme de différentes pages internet, mais également sous la forme du PDF de ce document. Il a jamais été publié de manière écrite et volontairement. C'est entièrement une exposition virtuelle sur le net, et donc un ouvrage PDF qui est téléchargeable. Et surtout, c'est des textes qui sont très courts, puisque la visée, c'était de créer une exposition. C'est des textes très courts qui font au maximum deux pages, et il y a toute une iconographie originale concernant les différentes sortes de coopératives et de mutuelles. Donc je vous engage vraiment à aller voir sur le site de l'inventaire du patrimoine de la région. C'est dans le cadre de tout le travail qui est fait sur les mémoires ouvrières, enfin par l'ex-région Poitou-Charentes, je ne sais pas ce que ça devient dans la Nouvelle-Aquitaine. Alors, l'histoire des coopératives de consommateurs, pour le dire très rapidement, on est dans une phase qui est celle du milieu du 19e siècle en Angleterre, de ce que les Anglais ont appelé les 40 affamés, les années 1840 affamées. C'est pas les 30 glorieuses, mais c'était les 10 ans de misère ouvrière, qui sont très bien illustrés, hein, par toute l'œuvre de Charles Dickens et notamment par Oliver Twist, qui est justement, quand il est publié en feuilleton, cet ouvrage, ce livre date justement des mêmes années, 1837-1839. Et puis surtout, au-delà du problème de la question sociale de la misère ouvrière, il y a également des mouvements politiques, les chartistes en Angleterre, avec des grèves, avec des mouvements sociaux, avec des combats contre les policiers. C'est l'image que vous avez ici. Et c'est dans ce contexte à la fois de questions sociales et de revendications d'un suffrage politique universel, puisqu'à l'époque le suffrage est censitaire en Angleterre, que va se situer l'origine des coopératives ouvrières. Alors, du point de vue théorique, je passe très rapidement là-dessus, mais le grand théoricien à la base, au départ en Angleterre, dans cette période-là, des coopératives de consommation, c'est Robert Owen, qualifié par Marx de socialiste utopique, hein, à l'image de Saint-Simon, par exemple, en France. Qui au départ est un industriel, hein, mais un industriel de type paternaliste avec un projet social dans une industrie dans une entreprise textile du nord de l'Angleterre qui s'appelle New Lanark, mais qui ensuite choisit d'essayer de construire aux États-Unis un projet complètement utopique que vous avez ici et qui est le projet d'une société nouvelle avec des Anglais, avec plusieurs centaines d'Anglais partant aux États-Unis, l'utilisant entièrement sa fortune pour monter ce projet utopiste qui capote complètement très très rapidement et revient ruiné en Angleterre où il s'engage dans le mouvement chartiste et où, suite à ces combats mais qui ont été assez infructueux, il va publier un ouvrage en 1836 qui s'appelle « Le nouveau monde moral » où il essaye d'imaginer la façon dont on peut changer le milieu pour permettre aux hommes d'évoluer. Et c'est là que justement se situe la théorisation des premières coopératives de consommation autour des principes fondamentaux pour lui qui sont la laïcité et l'éducation, le principe de groupe autonome, il ne faut rien attendre ni des riches ni de l'État. Il faut que les travailleurs s'emparent de leur propre sort. La notion de juste prix, prix qui n'est ni trop bas ni trop haut. La notion de propriété commune et également le principe de bourse des chances selon le principe à chacun selon son travail. Alors, tout ça, c'est de la théorie. Et Robert Owen, qui est extrêmement connu à l'époque en Angleterre, quand il a essayé de faire des choses concrètes, notamment par exemple les bourses d'échange, ça a été des désastres absolus. Hein. Ça n'a jamais marché, ce qu'il cherchait à mettre en œuvre. Par contre, du point de vue concret, on va voir foisonner, alors dès les années 1820, mais vraiment le mouvement se solidifie, se développe vraiment pleinement à partir des années 1840. L'une des coopératives de consommation, ou la coopérative de consommation même, qui au niveau mondial fait référence, c'est une expérience de 1844, et c'est les équitables pionniers de Rochdale. Alors, au départ, ils sont 28. Vous avez ici une photo qui est plus tardive, hein, qui est de 1865. C'est les 13 survivants des 28. On est à Manchester, on est dans la banlieue de Manchester, à Rochdale. On est à une vingtaine de kilomètres de Manchester. Ce sont des tisserands. Ce sont des travailleurs du textile, mais ne sont pas des ouvriers de la grande industrie. C'est-à-dire que ce sont des artisans qui travaillent à domicile et qui sont payés à la pièce. Dans ces années 1840, ils sont complètement pressurisés par les commanditaires qui, à la fois, leur fournissent la laine et qui, de l'autre côté, leur rachètent le tissu pour ensuite faire des vêtements dans les usines. Et leur marge, on peut le dire comme ça, leur marge se réduit considérablement. Et ils sont en train de s'appauvrir. La première chose qu'ils font, c'est évidemment d'essayer de négocier par rapport à ces commanditaires, de négocier les prix de vente. Ils font des grèves et ça échoue complètement. Et donc ils se disent, ben, puisqu'on n'y arrive pas du côté de notre revenu, on va jouer du côté de nos dépenses. Et on va essayer de se regrouper pour faire des achats en commun, pour lutter contre la deuxième exploitation qu'ils subissent, qui est l'exploitation des commerçants. Et ils vont choisir donc de monter leur propre magasin coopératif dans une ruelle qui s'appelle la ruelle des Crapauds. Vous avez ici l'immeuble qu'ils vont louer au départ puis qu'ils vont acheter ensuite, qui est devenu aujourd'hui le musée des coopératives de consommation en Angleterre. Hein, la même maison et a été transformée en musée. Et c'est très rudimentaire au départ. Vous avez ici dans ce musée la recréation des conditions de vente en 1844. Comment ça fonctionne? Ils vont au marché de Manchester, ils achètent en gros les produits, alors surtout c'est de la farine, c'est du sucre, c'est du beurre, etc. C'est vraiment des produits alimentaires basiques. Ils les achètent en gros, ils les ramènent en charrette à Rochdale et ils les vendent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois derrière le comptoir et devant le comptoir. Il y a des horaires d'ouverture du magasin, c'est tenu par deux coopérateurs. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais confiance à ce qu'il y ait un seul coopérateur qui soit présent. On estime qu'il faut toujours qu'il y en ait un autre qui surveille l'autre. Et donc, il y a deux coopérateurs qui, à tour de rôle, tiennent la caisse et distribuent les produits. Et puis, il y en a d'autres qui font donc les approvisionnements. Et puis donc, les coopérateurs peuvent acheter à des tarifs, on va le voir, qui ne sont pas forcément plus intéressants que le commerce traditionnel, mais qui, à terme, vont être plus intéressants. On va voir quel est le système un peu plus loin. Donc, c'est très bricolé au départ. C'est entièrement sur le mode de l'auto-organisation. Et ça démarre très fort, puisque dès 1846, au bout de 2 ans, ils sont déjà à plusieurs centaines de coopérateurs, alors qu'ils ont démarré à 28. Et c'est un mouvement qui se développe un peu partout en Angleterre et qui va devenir extrêmement puissant dans les années 1870-1880. Alors, pour ceux que ça intéresse, hein, il y a un DVD sur ce qui s'est passé en 1844. C'est un film, hein, c'est pas un documentaire, c'est un film, pardon, sur cette naissance. Un film de 52 minutes. Malheureusement, il est uniquement en anglais. Il n'y a même pas de sous-titres en français, donc il faut comprendre l'anglais. Il n'y a pas eu de version française faite de ce film, mais bon, on peut l'acheter en DVD, et il est très très bien fait, et il explique très très bien le contexte de la naissance, hein, en 1844, de cette expérience. Alors, des expériences de ce type-là, il y en a eu des milliers en Angleterre, et donc pourquoi retenir celle-là, et pourquoi au niveau international cette expérience de Rochdale, elle est fondamentale? Parce qu'ils vont écrire des statuts, ce qu'ils vont appeler la loi première. Et ces statuts, ces principes coopératifs, eh bien, ils vont rester jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans les objectifs de la coopérative, voilà comment ils annoncent les choses. Il s'agit d'améliorer la condition pécuniaire, là on comprend, pouvoir d'achat, mais aussi sociale et familiale de ses membres. Donc vous allez voir qu'il y a un objectif d'émancipation derrière la coopérative de consommation. Il ne s'agit pas, pour ceux qui étaient à la conférence avec Geneviève Azam, hein, il ne s'agit pas d'assurer uniquement le prosaïque, l'alimentation, ça va bien au-delà de ça. Et cette amélioration, elle va passer par la constitution d'un capital social initial, c'est-à-dire que chaque coopérateur doit amener dès le départ, avant même le démarrage de la coopérative, un capital. La part sociale est fixée à 1 livre. 1 livre sterling à l'époque, c'est pas négligeable. 1 livre sterling à l'époque, ça représente en gros 10 jours de travail d'un ouvrier. C'est pas une petite somme. C'est une somme importante qui va nécessiter d'ailleurs, pour qu'ils démarrent leur coopérative, d'attendre quasiment 6 mois, le temps qu'ils puissent chacun économiser cette somme. Alors, les principes qu'ils vont fixer, vous les avez ici. Il y a 7 grands principes dans la loi première, plus 2 principes qui sont pas dans la loi première, et j'expliquerai pourquoi. Le premier principe, c'est le principe au niveau des décisions, de la démocratie, de la gouvernance. Alors, le principe à l'époque est posé un homme égale une voix. Il n'y a que des hommes au départ. Bon, maintenant, c'est devenu une personne égale une voix dans l'économie sociale et solidaire. Mais le principe d'un homme égale une voix, c'est des droits. En assemblée générale, quel que soit le capital possédé dans la coopérative, on a exactement le même pouvoir de vote, contrairement aussi au système des sociétés par action. Mais c'est aussi des devoirs, c'est-à-dire que les coopérateurs sont obligés d'être présents dans les assemblées générales. Il y a des sanctions en cas d'absence répétée dans les assemblées générales, vous pouvez être exclu. Donc c'est un système, on l'a un petit peu oublié aujourd'hui dans les mutuelles et les coopératives, mais le système d'un homme égale une voix, c'est un système de droits et de devoirs. Il y a l'obligation d'être présent, l'obligation de voter, parce qu'on estime que c'est nécessaire à la bonne marche de la coopérative. Deuxième grand principe, c'est la vente au comptant. La vente au comptant, c'est-à-dire que le système des commerçants de l'époque, c'est le système de l'ardoise, c'est le système du crédit permanent, qui est une forme d'aliénation de l'acheteur par rapport au commerçant. Puisqu'il y a Benoît qui est présent, ça me permet de répondre à une question qu'il a faite l'autre soir et à laquelle on n'a pas répondu, sur le crédit à la consommation et vivre au-dessus de ses moyens. Le crédit à la consommation, pour moi, c'est pas vivre au-dessus de ses moyens. Le crédit à la consommation, c'est vivre au-dessus des moyens que vous accorde le capitalisme. C'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que les marchandises, elles existent, mais le crédit à la consommation a été construit pour enchaîner le consommateur à une entreprise et à une banque également. Et les ouvriers de l'époque étaient quasiment transformés en esclaves par les commerçants à travers ce système d'ardoise. Et l'un des modes de libération voulu dans les coopératives de consommation, c'était justement de refuser le crédit, d'interdire le crédit. Il faut payer au comptant. Et donc, c'est pas du tout, il ne faut pas le voir comme quelque chose, comme une contrainte, mais au contraire comme une formule libératrice. Cette vente au comptant, elle va se faire au prix du marché. C'est-à-dire, quel intérêt d'acheter dans une coopérative si vous payez le même prix que sur le marché? Mais on va voir l'intérêt, c'est la ristourne, c'est le troisième principe. Mais surtout, le principe, c'est aussi une garantie qualité. Une grosse critique à l'époque par rapport aux épiciers notamment, c'était que les produits étaient mal pesés, c'est qu'ils trafiquaient les balances, et que c'est également il coupait la farine avec du sable, il coupait le lait avec de l'eau, etc. Et donc il y a une garantie entre guillemets qualité. Troisième grand principe, justement, puisque le prix de vente au quotidien se fait au prix du marché, quel est l'intérêt ? C'est le principe de la ristourne. C'est le principe de la ristourne sur les achats, c'est-à-dire qu'en fin d'année, si la coopérative fait des excédents, une partie de ces excédents est retournée au consommateur au prorata des achats effectués, un pourcentage des achats effectués. Ce principe de ristourne répond premièrement à une volonté de prudence, de se dire... on ne va pas vendre à un prix plus faible et puis ensuite constater qu'on a fait un déficit. On attend de voir comment fonctionne le système et c'est à la fin de l'année qu'on constate que si, normalement, puisque justement il n'y a pas d'intermédiaire parasite, normalement on devrait récupérer de l'argent, on devrait récupérer un bénéfice. Donc ça c'est le principe de prudence. La deuxième volonté, c'est, je dirais dans l'esprit un petit peu de l'époque, c'est une forme de contrainte d'épargne. C'est de dire qu'il vaut mieux que le consommateur ne dépense, ne gaspille pas aujourd'hui et puisse retrouver une certaine somme à la fin de l'année. Et puis le troisième principe, c'était également une fidélité du, entre guillemets, du consommateur. C'est, il a intérêt à acheter le plus possible à la coopérative et pas ailleurs, puisque la ristourne dépend de ça. Quatrième principe, c'est l'intérêt limité au capital, c'est-à-dire que les parts sociales sont rémunérées. L'apport de capital est rémunéré, on n'est pas sur un capital qui n'est pas rémunéré. Simplement, cet intérêt, il est d'abord limité, il est plafonné à 3,5%. Et deuxièmement, l'excédent qui n'a pas été affecté au ristourne et qui n'a pas été affecté à cet intérêt aux parts sociales est affecté aux œuvres sociales et aux actions logement. Donc, si vous voulez, il y a une répartition tripartite des bénéfices, la ristourne, les intérêts sur le capital et les actions collectives. Cinquième principe, la neutralité politique et religieuse. Grave problème à l'époque en Angleterre. Bon, je ne développe pas là-dessus, mais il y a des protestants, il y a des catholiques. Politiquement, justement, il y a les éoénistes, il y a les autres, etc. Donc, très prudemment, les coopérateurs de Rochdale disent on va adopter le principe de la neutralité politique et religieuse. Sixième principe, la porte ouverte. Le principe de la porte ouverte, c'est le principe... de non-discrimination à l'entrée, c'est-à-dire que n'importe qui, alors à condition d'acheter une part sociale, hein, à condition d'être capable de réunir la livre sterling, n'importe qui peut rentrer, il n'y a aucune limite à l'entrée, mais également n'importe qui peut sortir à tout moment. C'est ça le principe de la porte ouverte, avec remboursement de la part sociale. On est sur le mode de la liberté, c'est pas une obligation professionnelle de rentrer dans cette coopérative ou une obligation communautaire, on est libre d'y rentrer et on est libre d'en sortir quand on le veut. Septième principe, c'est la promotion de l'éducation à travers une bibliothèque, à travers des cours du soir, notamment à travers des ateliers de cuisine également, par exemple, qui sont mis en place dès 1844. Et donc voilà les sept premiers principes. Alors, il y a un autre principe... Le huitième, qui n'est pas dans la loi, tout simplement parce que pour eux, c'était tellement évident qu'il n'y avait pas besoin de le mettre, et qui est donc implicite, c'est l'exclusivisme. L'exclusivisme, c'est l'idée qu'on ne peut bénéficier des services de la coopérative que si on est coopérateur. C'est-à-dire qu'on ne peut rentrer dans le magasin et faire des achats que si on est coopérateur et qu'on a acheté une part sociale. Le magasin, j'ai parlé de porte ouverte, c'est pas l'entrée libre. C'est pas n'importe qui rentre, achète et ressort. Vous ne pouvez rentrer dans le magasin que si vous êtes coopérateur. C'est ça l'exclusivisme, c'est exclusivement réservé aux coopérateurs. Ce principe d'exclusivisme, il a été en grande partie abandonné aujourd'hui par les coopératives de consommateurs, par la plupart des coopératives de consommateurs. Mais donc on est sur une sorte de club fermé. Certes, la porte est ouverte, mais la porte est ouverte au club. Et pour eux, c'était tellement évident que ça devait être un magasin réservé aux coopérateurs qu'ils n'ont même pas pensé à le mettre dans la loi première. Le neuvième principe, c'est un principe là qui n'est pas dans la loi première, tout simplement parce que le problème ne se posait pas au départ. Au départ, il n'y a pas de salariés dans la coopérative. C'est entièrement tenu par les coopérateurs eux-mêmes. Mais en 1854, donc 10 ans après la naissance, ils vont embaucher leur premier salarié parce que ça a tellement grossi que le système purement bénévole ne peut plus fonctionner. Donc ils embauchent leur premier salarié, qui est d'ailleurs coopérateur au départ. Et là, le problème se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait du salarié ? Quelle est la place du salarié dans la coopérative qui est propriété des consommateurs et qui est l'émanation même des consommateurs ? Est-ce que le salarié participe aux décisions ? est-ce qu'il est lui-même coopérateur ou est-ce que, comme dans n'importe quelle entreprise, entre guillemets, c'est le principe de subordination, c'est un moyen de production. Alors, au départ, ils disent, ils ont une volonté inclusive, et ils disent, les salariés sont des coopérateurs, doivent militer dans la coopérative, participent à la coopérative, et c'est le principe participationniste. Donc, les salariés participent à la coopérative, et participent obligatoirement à la coopérative. C'est-à-dire que si le salarié ne participe pas à la coopérative, il ne peut pas être salarié. Il est licencié. Enfin, il n'est pas licencié, il n'est pas embauché, plus exactement. Et donc, il doit prendre une part sociale, il participe aux assemblées générales, au titre de coopérateur comme les autres. Quand le nombre de salariés s'accroît au cours du temps, ça pose un problème. Ça pose un problème parce que dans les assemblées générales, ils sont de plus en plus nombreux. Qu'ils ont des intérêts spécifiques par rapport aux consommateurs non salariés. Et peu à peu, on décide qu'il vaut mieux que les salariés ne soient pas des coopérateurs. Et donc, en 1864, la coopérative de Rochdale abandonne le principe du participationnisme et même interdit aux salariés coopérateurs d'être présents dans les assemblées générales. Si on est salarié, on perd son droit de vote, entre guillemets. Alors, ça a été toute une discussion, ça, dans les coopératives. Qu'est-ce qu'on fait des salariés? Quelle est la place des salariés dans les coopératives de consommateurs? Et quand l'Alliance coopérative internationale se fonde en 1895, c'est un débat qui va être soigneusement mis sous le tapis. On va se dire, discuter du participationnisme, c'est trop problématique, et donc on ne va plus jamais en reparler officiellement. Alors, il n'y a pas que des achats alimentaires, de vêtements, etc. Ça, c'est ce qu'ils mettent en place au départ. Mais dès le départ, et c'est dans la loi première, ils ont des ambitions beaucoup plus larges, puisque l'objectif, c'est de construire également leur propre logement. C'est d'avoir une action en matière de construction de logement. C'est aussi de proposer aux membres en difficulté des emplois, enfin des activités plus exactement, pour les sans-emploi coopérateurs. C'est également de développer, de monter en amont dans la production, de faire de la production, de racheter des usines, par exemple, de type conserve, mais aussi d'acheter des terres et de faire de la production agricole. Ils achèteront très vite, au bout de 10 ans, vers 1854, un moulin, par exemple, pour fabriquer eux-mêmes leur farine et pas l'acheter sur le marché. Il y a également, donc, comme je l'ai dit, tout un système d'éducation. Et puis, ils ont même un projet qui rappelle Owen et qui est très utopiste. C'est, au bout d'un certain temps, quand ils seront suffisamment riches, de partir aux États-Unis et d'établir une colonie utopique avec les fonctionnements du socialisme utopique. Et puis également, très rapidement, dès 1864, on va voir une mutualisation des achats, une forme de centrale d'achat des coopératives. C'est ce qu'on appelle les commerces de gros, les wholesale societies, mais des coopératives. Les coopératives vont se regrouper pour acheter en commun. Et ça va devenir des centrales d'achat, enfin ça c'est le terme actuel, extrêmement puissantes en Angleterre. Alors, je passe très rapidement là-dessus, mais ce que disent les pionniers de Rochdale, on les retrouve quasiment intégralement dans l'Alliance coopérative internationale qui regroupe, au-delà des coopératives de consommateurs, également les banques coopératives, les coopératives agricoles, les SCOP, les coopératives de producteurs, etc. Hein, toutes les formes coopératives existantes dans le monde, les coopératives maritimes, etc. Et la formule coopérative existe partout dans le monde. C'est un mouvement mondial, y compris dans des pays les plus inattendus du style États-Unis, où il y a un très puissant mouvement coopératif aux États-Unis, ou au Japon, ou en Corée du Sud, enfin vraiment partout. Hein. C'est vraiment un mouvement mondial. Donc fédéré dans l'Alliance coopérative internationale, donc fondée en 1895. Et vous avez toujours le chiffre clé des sept principes, c'est un peu le chiffre magique. Simplement, bon, ils ont un tout petit peu évolué, mais on tourne exactement autour des idées de Rochdale. Simplement, l'exclusivisme et le participationnisme, qui on a vu ont posé problème, ne sont pas dans les principes fondamentaux de l'Alliance coopérative internationale. Alors, pour gagner du temps, pour passer directement au comité d'entreprise, je passe sur toute l'histoire régionale et sur ce qui s'est passé en France. Simplement, pour la petite histoire, hein, l'histoire des coopératives de consommateurs en France, ça commence par les boulangeries coopératives et ça commence par notre région, et plus précisément à Rochefort, en 1854, avec les deux premières boulangeries coopératives au niveau national. Et pourquoi ça commence par le pain? Bah, tout simplement parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, le pain est la base du budget ouvrier, ça pèse 70% du budget des ouvriers. C'est à l'époque près de 400 kilos par personne de pain consommé chaque année. À titre de comparaison, aujourd'hui on est à moins de 50 kilos en France. Donc c'est évidemment un enjeu essentiel et qui a de très grosses critiques par rapport aux pratiques des boulangers, à la fois en termes de prix, en termes de qualité et en termes de poids. Voilà. Je ne développe pas tout. C'est un mouvement, les boulangeries coopératives, on ne se rend pas compte de l'importance que ça a pu avoir jusqu'aux années 1950-60, que ce soit dans le monde urbain ou dans le monde rural, notamment dans l'ouest de la France, parce que ça a complètement disparu. Il en reste à peine une petite dizaine sur tout le territoire français aujourd'hui, dont une à Vendeuvre du Poitou. C'est la seule qui reste en Poitou-Charentes. Mais ça a été un mouvement extrêmement important. Alors ensuite, ça s'est développé aussi sur la formule des épiceries coopératives, avec un théoricien qui est Charles Gide, qui a été extrêmement connu dans les années 1890 à 1920 en France. Aujourd'hui, on a la survivance un petit peu de tout ce mouvement coopératif français dans notre région à travers COP Atlantique. Mais il y a eu d'autres expériences qu'on a oublié la naissance, par exemple, de la FNAC. C'était une coopérative de consommateurs, c'était la Fédération nationale d'achat des cadres. Et pendant, je crois, pratiquement 20 ans, c'est resté sous une formule de coopérative de consommateurs avant d'être transféré au monde capitaliste, mais ça a été complètement oublié, cette histoire-là. Et puis, il y a un renouveau aujourd'hui des coopératives de consommation en France, notamment à travers BioCoop. Mais je vous engage également à aller voir le documentaire récent, un FoodCoop, qui est sorti à l'automne 2016, qui est passé au Dietrich avec un débat qui était intéressant en novembre, de mémoire. Et donc, comme ça a été cité l'autre soir, hein, avec la déclinaison française qui est la Louve, à Paris, mais il y a plein d'expériences de même type en France aujourd'hui, notamment pour la Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux et dans le Pays Basque. Et on a un retour aux sources, parce qu'on est sous une formule de coopérative de consommateurs, mais il y a une grosse interrogation sur la qualité des produits. Simplement, c'est plus sur la fraude et sur le pesage, c'est maintenant sur la qualité alimentaire, sur le bio, etc., et sur le côté frais, hein, aux États-Unis, la qualité des produits frais. Et puis également, ce qui est... C'est pour ça que j'insiste un tout petit peu plus sur cet exemple que sur BioCoop. C'est aussi l'idée de participation des coopérateurs dans la production. C'est l'obligation à FoodCoop de 3 heures de travail pour chaque coopérateur mensuel, à décharger les palettes, à mettre en rayon, à tenir les caisses, à garder les enfants de ceux qui travaillent, etc. Je m'engage vraiment à voir le documentaire là-dessus. Et donc on retourne quelque part, même s'il y a des salariés, hein, parce que c'est trop... C'est des grosses machines qui nécessitent des salariés, mais on retrouve la place des coopérateurs dans le processus de production, et ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, je passe aussi sur tout ce qu'on pourrait dire sur la MAIF et la CAMIF, dans un monde enseignant sur notre région. Et donc, je passe au comité d'entreprise, parce que autant les coopératives de consommateurs, même si on a beaucoup de coopératives de consommateurs qui étaient liées à des entreprises, notamment des entreprises d'armement, par exemple en Poitou et en Charente, à l'intérieur de l'entreprise, quand il y avait des coopératives, c'était souvent les patrons qui les tenaient. C'était souvent des formules de paternalistes. Et donc les coopératives de travailleurs, d'ouvriers, étaient souvent montées en dehors des usines. Alors, à l'intérieur des usines et à une autre période, je voudrais juste dire quelques mots sur les activités sociales et culturelles des comités d'entreprise. En remontant avant la naissance des coopératives à 1936, et à un homme qui pour moi est essentiel, c'est Léo Lagrange, secrétaire d'État à l'Organisation des loisirs et au sport en 1936. Et ce qu'il disait, donc il arrive en juin 1936 à son poste, il tient un grand discours radio à la Voix de Paris, le nom de la radio c'est la Voix de Paris, le 10 juin 1936, et voilà ce qu'il dit dans ce discours radio. La semaine de 40 heures, les congés payés, l'accession de la classe ouvrière et des masses populaires de notre pays à une vie que le travail n'absorbera pas intégralement, pose devant nous le problème de l'organisation des loisirs. Donc première chose, c'est l'idée que l'émancipation de la classe ouvrière ne passe pas que par une réflexion sur l'organisation du travail, sur ce qui se passe à l'intérieur de l'usine, mais également sur ce qui se passe à l'extérieur de l'usine. Deuxième idée, c'est qu'il part bien d'organisation des loisirs. Les loisirs, ce n'est pas qu'une question de vie privée, et ce n'est surtout pas une question de marché des loisirs. Ça s'organise. L'État a un rôle dans le domaine de l'organisation des loisirs, mais vous allez voir que ce n'est pas du tout un État centralisateur, c'est un État qui, au contraire, collabore avec les organisations ouvrières et les associations. Deuxième élément du discours, hein, mais c'est à la suite. Hein. Loisirs sportifs, loisirs touristiques, loisirs culturels, tels sont les trois aspects complémentaires d'un même besoin social, celui de la conquête de la dignité et de la recherche du bonheur. Premier élément, le lien sport, tourisme, culture. On n'est pas du tout dans le fractionnement qu'on connaît aujourd'hui, type ministère de la culture d'un côté, ministère des sports de l'autre, ministère du tourisme de l'autre côté. Pour lui, c'est trois faces d'un même aspect. L'émancipation ouvrière doit être capable de lier ces trois aspects-là. C'est à la fois le corps, l'esprit et la détente. Deuxième chose, c'est une question, il ne parle pas du tout de consommation. Il ne parle pas de biens et de services de consommation. Il dit que c'est une question de besoin social, c'est une question de dignité, c'est une question de bonheur. C'est pour ça qu'on a souvent qualifié 1936 de l'an 1 du bonheur. C'est une réflexion qui n'est pas du tout consumériste, justement. Troisième élément, pour mettre debout cette œuvre immense, pour l'animer du souffle puissant de la vie populaire, je compte sur la collaboration active de toutes les organisations qui existent, et notamment sur celle de la classe ouvrière. Il ne s'agit pas d'avoir un État qui fait tout, et même de toute façon, il n'a aucun moyen financier dans son secrétariat d'État, donc même s'il était sur ce modèle-là, de toute façon, il n'a pas l'argent. D'ailleurs, son budget n'arrivera qu'en 1937. Pendant un an, il va fonctionner quasiment avec zéro franc. Mais c'est surtout un objectif démocratique de co-construire une politique des loisirs. Et il va s'appuyer, quand il parle d'organisation, on dirait aujourd'hui les associations et les syndicats. Et pourquoi il veut cette collaboration? Tout simplement parce qu'il s'oppose à ce qui est mis en place à l'époque en Italie, en Allemagne et aussi en Union soviétique. C'est la caporalisation des loisirs, c'est l'encadrement à travers les grandes organisations en Italie l'opéra d'Oppo Lavoro, donc l'œuvre de l'après-travail, organisation fasciste, et en Allemagne, Kraft durch Freude, la force par la joie, l'embrigadement des masses populaires dans le système fasciste et nazi, mais également en Union soviétique, vous avez des choses qui sont tout à fait comparables. Et donc, il s'oppose complètement à ce modèle centralisateur étatique d'organisation des loisirs. Et deuxième opposition également, c'est une opposition par rapport au marché. Quand il dit transformer la joie habilement distribuée en moyen de ne pas penser, il a là ce qui se passe en Angleterre, modèle du divertissement autour des loisirs et des vacances, hein, mis en place notamment par Thomas Cook au XIXe siècle. Alors, simplement, et je vais finir là-dessus pour ne pas faire trop long, je vais pas détailler les ASC, simplement je vous ai parlé de quelqu'un qui était de la SFIO en 1936, et maintenant je vous parle du PS en 2016. Est-ce bien raisonnable? On est en 2016, on fête les 70 ans des comités d'entreprise, on fête les 80 ans des congés payés, et voilà ce que sort... Ah, il ne veut pas me sortir. Voilà, ça arrive. Voilà ce que sort le ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires sociales et de la santé, le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, une mission de consultation sur l'évolution du régime social des avantages, le terme avantage est important, versés par les comités d'entreprise dans le cadre de leurs activités sociales et culturelles. Interrogation sur la fiscalisation des activités sociales et culturelles. Depuis 30 ans, un détournement de la vocation initiale du dispositif dans le sens d'une certaine optimisation sociale. La dynamique de cette niche sociale constitue un enjeu financier de premier ordre. Le gouvernement étudie notamment les évolutions suivantes. Bon, garantir le respect de leur vocation sociale, qui justifie leur statut social avantageux. Adapter les règles d'attribution de ces avantages. Réintégration dans un régime social plafonné. Mise en place d'obligations déclaratives, etc. Vous voyez l'opposition totale par rapport au discours de Léo Lagrange. On est dans une vision qui est complètement à l'opposé, qui n'est pas du tout une vision d'émancipation ouvrière, qui est une vision en termes d'avantages économiques, d'avantages sociaux et une vision de consommation. Alors, il est comme vous peut-être, il est fatigué l'ordinateur, et j'arrive à ma conclusion directement.
C'est moi qui étais trop long.
Non, moi aussi. On fait exactement le même temps. Derrière ces deux citations que je viens de prendre, en fait, on voit bien que derrière les activités sociales et culturelles des comités d'entreprise, il y a une dialectique. Il y a d'abord la vision économique, qui est indéniable, c'est que les activités sociales et culturelles, c'est à la fois du pouvoir d'achat, c'est à la fois une question de redistribution et une question de consommation. avec les interprétations qui sont celles du PS 2016, interprétation néolibérale, il s'agit davantage de substituts salariales négociés, il n'y a pas de raison de ne pas le fiscaliser, au même titre que tous les avantages en nature ou que toute forme de rémunération, ou l'interprétation plutôt de gauche régulationniste, de dire que c'est une forme de salaire socialisé intégré dans le rapport salarial fordiste, un peu à l'image des cotisations sociales dont on avait parlé. Mais et donc là, quand vous parlez en ces termes, ce qui vous intéresse, c'est les montants que ça représente, les montants monétaires que ça représente, c'est les publics concernés qui, au sein de l'entreprise, a droit ou pas à ces activités, qui les utilisent ou pas, etc. Et vous raisonnez en termes de marché. Le marché des CE, c'est bien un marché colossal, je ne l'ai pas dit, mais de plusieurs milliards d'euros. Mais vous avez également une autre vision, qui était celle de Léo Lagrange et de 1945, de la mise en place des comités d'entreprise et du rapatriement des œuvres sociales patronales sous la forme justement de ce qui va devenir les activités sociales et culturelles. Dans ce cadre-là, les activités sociales et culturelles, ce n'est pas une question de pouvoir d'achat, de consommation, c'est une question de temps, c'est une question de temps choisi, de temps de lien entre, de temps choisi pour soi, de temps de lien entre les salariés, de temps libérateur, émancipateur, d'éducation populaire, et aussi d'un temps de vivre, tout simplement. Et là, vous pouvez l'interpréter soit dans une optique, je dirais, libérale. Ça peut aussi s'interpréter en termes libéraux à travers la théorie des capacités d'Amartya Sen. Soit vous pouvez l'interpréter dans un esprit qui a été un petit peu, à mon avis, Bertrand est beaucoup plus connaisseur que moi, de Geoffroy Dumazeudier, autour de la sorte de premier sociologue des loisirs en France, mais qui également était quelqu'un de fondamental pour comprendre le mouvement de l'éducation populaire en France, qui n'a pas été est très loin de là qu'un théoricien. Et donc l'ouvrage de 1962, Vers une civilisation des loisirs, est important. Le point d'interrogation est particulièrement important. Soit même, on peut retourner beaucoup plus en arrière, et moi c'est là-dessus que je suis, c'est celle de Paul Lafargue et du fameux droit à la paresse, et du 3 heures de travail par jour, et l'interdiction de travailler 3 heures par jour, et vraiment de cette idée. Contrairement peut-être à Marx, bon, c'est l'opposition du gendre au beau-père, hein, et pas la belle-mère peut-être, c'est la désaliénation révolutionnaire du travail, et de dire l'important, c'est pas forcément le pouvoir d'achat, c'est plus ce qu'on fait en dehors du travail. Et je renvoie à ce que j'ai dit sur le manifeste sur les produits de haute nécessité guadeloupéen de 2009 à ce propos. Et donc là, on a un focus sur les activités, les modalités, les finalités. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'être capable de combiner les deux, d'être capable justement d'avoir ce raisonnement dialectique et de bien voir que les activités sociales et culturelles, c'est à la fois une question économique. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas être que sur la question émancipatrice. Mais il ne faut pas non plus mettre complètement de côté, comme on le fait actuellement bien souvent, cette vision émancipatrice. Et donc, tout simplement, à travers ces deux exemples, il s'agissait d'illustrer le fait qu'il s'agit à travers ces exemples, à travers par exemple les coopératives de consommateurs, mais aussi les mutuelles, mais aussi donc les activités sociales des comités d'entreprise, de s'opposer complètement aux deux enfants de Margaret Thatcher, l'idée qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme, qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut pas imaginer un modèle économique différent de l'organisation capitaliste. Et on le voit qu'à travers les coopératives de consommateurs ou ce qui se passe avec les comités d'entreprise, on peut avoir un modèle économique différent. Et puis également, la deuxième idée de Margaret Thatcher, c'était de dire qu'il n'y avait pas de société, qu'avec des individus et que la société, c'était simplement l'agrégation, l'addition de personnes isolées. Et donc, c'est le fameux principe, hein, ça correspond à la main invisible d'Adam Smith, ici, c'est une boîte de magie anglaise qui exprime ça. Et c'est l'idée qu'au contraire, eh bien, les corps intermédiaires, les regroupements, et notamment des travailleurs sont essentiels pour justement aller vers le progrès social. Je vous remercie de votre attention et pardon pour le dépassement de temps.
Mais encore merci à tous les deux d'avoir si bien honoré la commande qui vous était faite. Je pense qu'on a tous les éléments pour engager la discussion.
J'ai oublié de dire juste sur les comités d'entreprise, ce que je vous ai présenté, hein, ça s'inspire d'une contribution que j'ai faite. Il y a eu un grand colloque à propos, lors des 70 ans des comités d'entreprise à l'Université de Poitiers, c'était en décembre 2015, puisqu'on fêtait les 70 ans des comités d'entreprise, donc organisé par notamment les juristes, mais également en collaboration avec quasiment toutes les organisations syndicales. Et donc l'ouvrage vient de sortir, là, il y a 15 jours, hein, les actes du colloque, donc les comités d'entreprise dans l'évolution de la représentation collective des salariés, voilà, aux presses de la fac de droit.
Une question pour notre ami. La sécurité sociale a souvent mauvaise presse parce qu'on parle souvent de ce trou insondable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Qui compense? La caisse de dépôt et de consignation? L'État qui, quand il y a déficit, pourquoi il y a ce déficit? Et puis, de l'autre côté, qu'apporte la loi Hamon, hein, par rapport à l'économie sociale et solidaire de rappel, dont on sait que le Crédit Agricole notamment fait partie, et d'autres associations tout aussi peu recommandables. Voilà. Merci.
Quelqu'un d'autre parler maintenant? Oui, non, plus tard. Moi, c'est juste une curiosité sur la presqu'île d'Hervert où il y avait un rond rouge. Là, si tu pouvais expliquer pourquoi.
Je réponds sur le. Enfin, je réponds. C'est quoi le trou de la sécu? Le trou de la sécu, c'est un besoin de financement des risques sociaux à un moment ou à un autre. Par rapport à, c'est un excès de dépenses par rapport à une faiblesse de recettes. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a 20 milliards d'exonération de cotisation des entreprises. Alors, vous ne m'entendrez jamais parler de charges. Il faut qu'on soit clair. Pour nous, le financement de la protection sociale, c'est un salaire socialisé. Donc, ça fait partie de notre travail. Et à partir du moment où il y a exonération, il y a vol. On est bien d'accord. Moi, je ne l'appelle pas salaire. C'est pas un salaire indirect, c'est un salaire socialisé, c'est-à-dire un salaire. Un salaire, c'est une partie du salaire qui est mis au service de la collectivité, y compris la cotisation des entreprises. Parce que la cotisation des entreprises, elle est prise sur la productivité de l'entreprise et sur la richesse créée dans l'entreprise. Elle ne sort pas, monsieur Dassault, je prends cet exemple-là. Puisque comme il s'est détourné l'argent, il doit savoir d'où ça vient. Monsieur Dassault, il ne sort pas de sa poche la cotisation de ses salariés. Ça vient de la richesse créée par l'entreprise. C'est pas, et la richesse qui est créée dans l'entreprise, c'est les salariés qui la créent. Donc ça fait partie de leur, notre travail, quoi. Et le trou, et il faut mesurer le budget de la sécurité sociale. J'en ai pas parlé parce que il serait été trop long. C'est environ 200 milliards d'euros, c'est-à-dire une fois et demi le budget global de l'État français. C'est ça le budget une fois et demi le budget de l'État. Le budget de l'État, c'est le résultat de tous les impôts et taxes. On est d'accord. Ça fait 170 milliards d'euros, je crois. C'est dans ces chiffres-là. Et le budget de la sécurité sociale, c'est un peu plus de 200 milliards d'euros. C'est un budget à part, hein, puisque c'est pas la même base de calcul. Donc 10 milliards, si vous prenez l'ensemble du déficit du budget de la sécurité sociale, enfin le déficit. Le manque de recettes, c'est environ 10 milliards sur 200 milliards. J'aimerais bien que les gestionnaires de l'État français soient aussi bons gestionnaires pour le budget de l'État que pour le budget de la Sécu, quand même. Parce que le budget de l'État, nous, on est en déficit permanent depuis de très nombreuses années. Et on paye même le déficit très cher. D'accord ? Ceux qui veulent donner des leçons sur le déficit aujourd'hui, et ça représente environ 3 jours de remboursement de frais. faut le savoir, quoi. C'est pas non plus, faut pas non plus. Et moi, je mets en parallèle les exonérations de cotisations. Alors, depuis 1993, c'est-à-dire la loi Balladur, qui a institué les exonérations de cotisations, enfin, disons qu'il les a régularisées, puisqu'avant, c'était les entreprises qui ne payaient pas leurs cotisations à l'URSSAF. Et depuis 1900, et la première loi Balladur sur les retraites, on a exonéré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, on a exonéré de cotisation une fois 1,8 de la valeur du SMIC. Hein, alors c'est des plafonds, c'est bien des plafonnés, mais et en même temps on paye deux fois parce que l'État rembourse en partie la sécurité sociale. Ça veut dire que nos impôts payent ce que c'est extraordinaire, quoi. On paye par le biais des cotisations qui sont exonérés, qui vont dans la caisse de l'entreprise, et on paye. C'est un système complètement aberrant. Quand on vous dit que la droite libérale et les économistes dogmatiques veulent récupérer cet argent qui leur a été pris en 1945, hein, c'est ça, quoi. Mais c'est pour ça que je pense que moi la sécurité sociale. Mais les ASC dont on parlait, là, c'est pour nous, à la CGT tout du moins, ça fait partie intégrante du salaire socialisé. Quand on parle du salaire socialisé dans une entreprise, il y a les cotisations sociales, mais il y a aussi les cotisations, là où il y a des CE, parce que toutes les entreprises n'ont pas de CE. Hein. Vous savez que pour avoir des CE, il faut être 50, et le financement des CE, si vous avez un syndicat qui se bat à l'entreprise, vous avez un bon niveau, mais si vous, il n'y a pas de, c'est le minimum légal, quoi. Donc, pour moi, le trou, c'est un manque de financement davantage qu'un excès de dépenses, quoi. Et aujourd'hui, on est en train de faire payer doublement aux assujettis que nous sommes. Par le biais, on veut récupérer 1 milliard sur les hôpitaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire moins d'infirmières, moins de personnel soignant, moins de médecins, moins. Voilà, parce qu'il faut le récupérer, le milliard. Tout le monde a dans la tête ce qui se passe à Châtellerault aujourd'hui, avec l'hôpital Nord. Il y a 300 millions déclarés de déficit. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y a des intérimaires, ou il y a des CDD plutôt, c'est des CDD. On dit, on ne va pas reprendre les CDD, mais on ne licencie pas, mais on ne reprend pas les CDD. Il y en a 200. Hein. Ça veut dire, tout, mais ces 200 personnes-là, ou alors ils ne servent à rien en ce moment, et qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Voilà, mais non, mais c'est on est dans un monde qui marche sur la tête, quoi. Voilà, moi j'ai pas de réponse. Nous, on a une réponse à la CGT, c'est qu'il faut changer le mode de calcul des cotisations. On pense que le mode qui a été institué en 1945 n'est plus adapté à la société d'aujourd'hui, et que aujourd'hui des entreprises qui ont peu de main d'œuvre et qui font beaucoup de bénéfices doivent payer pour celles qui ont pour l'inverse, quoi. Parce que sinon, aujourd'hui, moi, je travaillais au PTT, hein, avec La Poste et France Télécom. La Poste, c'était une entreprise de service où il y avait à mon époque 350 000 agents. Et France Télécom, qui faisait partie des PTT mais qui a été séparée, avait 150 000 agents. Mais il y en a une qui faisait 800 millions de bénéfices et encore, fallait tirer par les cheveux certaines années, et l'autre qui en faisait 8 milliards. Et en termes de cotisation, La Poste payait plus que France Télécom. C'est un exemple frappant. Mais on pourrait le prendre pour l'industrie pétrolière et chimique, qui avec personnel important, mais restreint par rapport aux bénéfices. Quand on voit le bénéfice de Total... on se pose des questions sur mais il part où cet argent? Il part où, quoi? Et donc, nous, on veut que ces entreprises-là cotisent plus au détriment des PME, PMI qui font la force de l'emploi dans nos régions, mais pas seulement chez nous, quoi.
Alors, à propos de la loi Hamon, très rapidement, parce que ça pourrait faire une conférence, qu'est-ce que j'en pense? Beaucoup de bien, mais pas que du bien, et c'est qu'une loi. Alors, beaucoup de bien du point de vue de la reconnaissance et de la visibilité de l'ESS. C'est-à-dire, jusqu'à présent, ça fait très longtemps qu'on a, depuis le 19e siècle, hein, depuis justement la Troisième République, on a des lois sur les mutuelles d'un côté, sur les coopératives de l'autre, sur la loi sur les associations de 1901, etc. Donc on avait un monde qui était éclaté, qui s'était fédéré depuis les années 70, mais ce n'était pas reconnu par l'État. Maintenant, la réalité de l'économie sociale et solidaire est vraiment reconnue. Et cette reconnaissance, elle participe à une visibilité, c'est un gage de sérieux. C'est pris au sérieux maintenant l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est le gros avantage de la loi, et il fallait le faire. Et on l'attribue à Benoît Hamon, c'est un peu plus compliqué que ça. Pour une fois, le gouvernement Sarkozy y pensait déjà, hein, dès 2009, et même c'est François Fillon qui est le premier à penser à une loi cadre d'économie sociale et solidaire. Bon, j'aime pas du tout François Fillon, mais c'est la réalité. En fait, François Hollande n'a fait que continuer des efforts qui avaient été commencés en 2009. C'était dans le cours du temps. Mais pourquoi en fait Sarkozy s'y est intéressé? Tout simplement parce qu'il y a eu la crise de 2008. Hein. Je veux dire, c'est pas qu'il tient à l'ESS, mais c'est comme il y a eu aussi la réflexion sur les nouveaux indicateurs de richesse en 2009, etc. Je veux dire, c'est purement lié à la crise de 2008 et des subprimes. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, ça, c'est sur le bien, pour faire simple. Pas que du bien. Pourquoi? Parce que premièrement, l'État se déresponsabilise complètement par rapport à l'économie sociale et solidaire. Il n'y a jamais beaucoup mis d'argent, mais là, il dit que c'est les régions qui font tout. Alors, ça, c'est une politique générale de l'État de dire, pour des questions de dépenses publiques, on transfère tout aux régions et elles vont se démerder avec. C'est exactement ce qui se passe sur l'ESS. Donc, ça, c'est la première critique que je ferai. L'État, en quelque sorte, dit que c'est du domaine des régions. Deuxième grosse critique, c'est que cette loi, et elle est liée justement à l'histoire de 2008, elle est sous l'optique, l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord une question d'emploi et de développement économique. C'est entièrement axé là-dessus, c'est parce qu'on s'est aperçu que depuis 2008, le seul secteur qui a continué à créer des emplois, c'est justement le secteur de l'économie sociale et solidaire, et plus particulièrement des associations. C'est-à-dire que l'emploi privé s'est cassé la gueule, l'emploi public également, ça on ne le dit pas souvent, mais il y a une réduction du nombre drastique. Et donc le seul secteur qui a continué à créer des emplois malgré la crise, c'est le secteur de l'ESS. Et donc on a focalisé, il y a une obsession sur la création et le soutien à l'emploi dans la loi ESS. Or, comme je l'ai montré tout à l'heure, l'ESS, ce n'est pas qu'une question économique, c'est aussi une question d'émancipation, c'est aussi une question de bénévolat, de temps libre, etc. Et ça, ce n'est pas du tout intégré dans la loi. Donc c'est la deuxième critique que je ferai. C'est une réduction de l'économie sociale et solidaire. Alors, certes, il y a du social et du solidaire, mais c'est une entrée entièrement économique. C'est très bien, hein, parce que jusqu'à présent, justement, on ne prenait pas au sérieux l'entrée économique. On disait, tout ça, c'est bien gentil, c'est de la philanthropie, etc. Donc, c'est bien qu'il y ait l'entrée économique, mais le résultat, c'est que cette entrée économique, elle masque ce qui est également important pour l'économie sociale et solidaire. Et après, ce n'est qu'une loi. Entre parenthèses, d'ailleurs, le 11 avril, hein, il y a un colloque sur les nouvelles régions, et à l'intérieur, on intervient sur, justement, les grandes régions et l'ESS. Avec une première analyse de ce que font les nouvelles régions en matière de politique régionale ESS, ce qui est imposé par la loi, justement. Ce n'est qu'une loi, et je vais prendre justement l'exemple des banques coopératives, qui sont donc les banques coopératives Crédit Agricole, Caisse d'Épargne, Crédit Mutuel, Banque Populaire, hein, donc qui sont des banques coopératives depuis, là encore, la Troisième République. Il pourrait avoir beaucoup travaillé sur les banques coopératives, il y aurait beaucoup de choses à dire sur elles. Simplement, je voudrais souligner l'extraordinaire paradoxe qu'on a en France, le cœur même du capitalisme, la finance et l'assurance, enfin la finance, la banque et l'assurance pour être précis, le cœur même du capitalisme, il est tenu par l'économie sociale et solidaire en France. 60% du marché bancaire, c'est les banques coopératives. La moitié du marché de l'assurance, dommages, biens, etc., ce sont les mutuelles d'assurance. Je veux dire, le cœur du capitalisme, il est tenu en France par le système coopératif et mutualiste. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, qu'est-ce qu'on en a fait? Rien, voire même des, Là encore, il faut revenir à la crise de 2008 et voir ce qu'ont fait les banques coopératives françaises. Elles ont fait exactement la même chose que les banques capitalistes. Elles étaient dans les paradis fiscaux, dans le Madoff, dans les subprimes, etc. Il n'y a qu'à voir ce qu'a fait le Crédit Agricole en Grèce pour comprendre. Donc on n'a pas fait grand-chose d'original dans les dernières années. Pas pire que les capitalistes. Hein. Bon, on ne peut pas exagérer, mais pas mieux. Sauf peut-être sur un aspect territorial, mais bon, là, je n'ai pas le temps de développer. Mais c'est surtout, je dirais, également ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire, on a un potentiel extraordinaire. Ce sont les sociétaires qui tiennent, y compris le Crédit Agricole, quatrième banque mondiale. 60% du capital de CASA qui est coté en bourse est détenu par les caisses régionales, c'est-à-dire indirectement par les sociétaires. Et donc, il y a un moyen d'action, il y a un outil d'action extraordinaire si des citoyens cherchent à s'en emparer. Certes, il y a un contrôle technocratique. Les cadres dirigeants, ils n'ont pas l'intention de lâcher le morceau. Hein. Ils contrôlent très, très fortement le système et c'est très dur de faire bouger les choses. Mais là, il y a un levier d'action extraordinaire. Moi, je regrette qu'en parallèle, on fonde des nouvelles banques type NEF, etc., en se disant « bon, c'est plus la peine, hein, je veux dire, ces mastodontes-là, il n'y a plus rien à récupérer », mais qu'on n'essaye pas de faire la révolution à l'intérieur de ces banques coopératives. Et juridiquement, c'est tout à fait possible. Hein, c'est dans les statuts, c'est les sociétaires qui ont le pouvoir. Et c'est le principe « une personne égale une voix ». Quand vous regardez une assemblée générale de caisse locale, vous avez une centaine de personnes présentes, vous venez à 20, 30... vous pouvez complètement prendre le contrôle. C'est tout à fait faisable. Mais il faut le faire. Et c'est vrai, bon, c'est difficile parce que c'est des enjeux techniques. La banque et l'assurance, bon, c'est quand même très technique. Hein. Une coopérative de consommation, parler de petits pois ou de pain, c'est encore accessible. Parler de crédit, parler de services bancaires, etc., ou même chose en matière d'assurance, c'est du technique, c'est pas forcément simple. Mais surtout, ça s'organise, parce que si vous arrivez de manière spontanée à 20 ou 30, que vous n'avez pas préparé les choses, ils vont savoir vous étouffer. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Je peux dire un mot ? Ah oui, sur Arvert, sur les boulangeries coopératives à Arvert, c'est à la fois parce que, si on reprend la carte, hein, on s'aperçoit que c'est très, très... Il y a des regroupements, bon, peu importe, je ne la mets pas. Ça se passe beaucoup sur les Deux-Sèvres et les Charentes-Maritimes et sur des endroits très localisés. Il y a des effets de diffusion et donc particulièrement sur le bassin d'Arvert, par exemple, où il y a eu un grand nombre de coopératives fondées entre 1850 et 1870. Bon, c'est une concentration géographique particulière. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus et sur le rôle du protestantisme. Voilà. Mais en fait, c'est tout simplement que j'ai fait une conférence là-dessus à l'Université du Temps Libre Oléron, Pays de Marraine, et que j'avais souligné la presqu'île d'Arvert, puisque c'était leur territoire. Voilà.
Oui, y a la question que vous avez posée tout à l'heure à Gilles, c'est la loi Hamon. Pourquoi je réagis, ça n'a aucun rapport avec ce que vient de dire Gilles. C'est parce que on est face aussi dans ce pays à un révisionnisme certain. Pas seulement... de la part des gens d'extrême droite. Si je vous parle la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, vous me dites quoi ? C'est la loi Veil. Tout le monde dit c'est la loi Veil. La loi Hamon, tout le monde, si on parle de la loi sur l'économie sociale et solidaire, c'est la loi Hamon. Le porteur de la loi sur la protection sociale et la sécurité sociale en France, qui est certainement une des lois les plus importantes qu'on ait eues en 1945, s'appelle Ambroise Croizat. Mais vous pouvez poser la question autour de vous dans la rue. Qui c'est Ambroise Croizat ? Personne ne connaît Ambroise Croizat. C'est pour ça que je me dis qu'il y a un certain révisionnisme dans ce pays, parce que dès que les lois... viennent de gens très progressistes ou appartenant politiquement ou syndicalement marqués, ça n'existe pas, quoi. Ça veut dire que la loi déposée à l'Assemblée nationale et défendue par Ambroise Croizat s'appelle pas la loi Croizat, hein. Elle s'appelle la loi de la mise en place de la sécurité sociale. Parce qu'Ambroise Croizat était tout simplement militant de la CGT et militant du Parti communiste. Et je trouve un peu dommage qu'il y ait cette...
sur la loi Hamon, est-ce qu'il n'y a pas aussi, sans discuter les points positifs, l'avancée en termes de reconnaissance, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des points de confusion qui ont été introduits dans la loi entre le privé et le public, notamment autour de la notion d'innovation sociale, par exemple, où on brouille un peu les cartes entre tous les secteurs, peut-être aussi à travers d'autres dispositifs. Mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas un certain confusionnisme qui est présent aux marges de la loi ?
Il y aurait beaucoup de discussions, notamment autour de la notion également d'entreprise sociale, d'entrepreneuriat social, qui est reconnue par la loi, qui étend au-delà des statuts historiques l'économie sociale et solidaire. J'ai une position qui est un peu critique comme toi là-dessus, mais en même temps, je me dis, c'est aussi un signe d'ouverture. On avait une telle ankylose des structures historiques sous les statuts coopératifs, mutuels, associatifs existants, que ça peut, à travers l'innovation sociale, l'entrepreneuriat social, etc., ça peut mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière, quelque part. Donc ça, c'est mon côté optimiste. On parlait de pessimisme et d'optimisme l'autre jour. Le pessimisme, c'est de se dire, ah ben oui, mais là, les frontières, elles deviennent floues. Et puis, de plus en plus, sur le modèle américain des grandes fondations de Bill Gates, la fondation Bill Gates, ou de Mohamed Younous pour le microcrédit, etc., l'entrepreneur social héros qui change le monde, etc., qui est tout à fait une vision capitaliste, etc. Donc ça je le pense aussi. Mais en même temps, on peut être un peu optimiste en se disant il y avait besoin de secouer un petit peu les choses, parce que il y a certaines... Juste un exemple positif sur les banques coopératives. La loi Hamon impose maintenant la révision coopérative pour les banques coopératives, la révision coopérative qui n'existait que dans les SCOP, c'est-à-dire que tous les 5 ans, on étudie alors à la fois la santé financière de la SCOP, mais également la gouvernance démocratique, qui n'existait pas pour les banques coopératives, est maintenant mis en place. Donc ça aussi, pour la petite histoire, toutes les coopératives maintenant sont soumises à la révision coopérative, mais ce qui est intéressant, c'est que les mutuelles l'ont refusé. Il y avait un projet de révision mutualiste, et les mutuelles de santé et d'assurance ont absolument refusé qu'il y ait une révision mutualiste. Et les associations n'en ont même pas parlé, parce qu'on a senti que c'était beaucoup trop explosif. J'en vois au débat qu'il y avait eu à l'époque du ministère du Tronc Libre sur la réforme de la loi de 1901. Donc les associations, on n'a même pas parlé de révision associative. L'idée de la révision, c'est non seulement de donner des conseils et de regarder la santé financière, comment les choses vont, mais le principe de la révision, c'est de vérifier qu'on respecte bien les grands principes de l'économie sociale et solidaire, et notamment les principes démocratiques. Et ça, les mutuelles l'ont refusé, alors que le gouvernement l'envisageait. Et on n'a même pas osé, parce que c'était un tabou, intervenir sur les associations là-dessus. Voilà.
On peut prendre une ou deux questions encore, peut-être, d'un seul coup, et puis après, on leur redonne la parole une dernière fois.
Oui, une petite remarque et peut-être une interrogation aussi. D'abord, je voudrais saluer les deux intervenants sur la qualité des infos qu'ils nous livrent, et y compris, je pense à Alain Perrotte sur revenir sur le réel, quoi. Ambroise Croizat, je crois que c'est très intéressant de rappeler aussi son rôle majeur, comme y compris la CGT, je le dis, a joué un rôle majeur sur les comités d'entreprise aussi. Je connais ça. Moi, je voudrais poser une question, parce que ces deux m'interpellent sur les questions du financement. Je pense que derrière, il y a la notion de l'emploi qui est indispensable. Alors moi, la question est très concrète. Sur les SCOP, on aurait pu faire une expérience aussi sur la région, y compris dans la Vienne. Moi, j'en connais qui malheureusement ont échoué, mais je sais pourquoi, parce que les banques aussi n'ont pas joué leur rôle, évidemment, pour aider ces salariés qui voulaient les faire vivre. Mais sur la notion d'emploi, est-ce que vous pensez que l'économie sociale et solidaire, à elle seule, d'ailleurs, je ne pense pas qu'elle soit capable de créer les emplois qui seraient aujourd'hui utiles. Je pense que c'est un complément. Et je ne pense pas que ça s'oppose non plus à cette idée de réindustrialisation de notre pays. Je ne pense pas non plus que ça s'oppose à la nécessité de créer des emplois dans la fonction publique. On rappelait tout à l'heure la situation de l'hôpital, la catastrophe qui est annoncée sur Châtellerault, etc. Et il y en aura bien d'autres qui vont suivre. Ça me renvoie évidemment à la situation actuelle avec les programmes des uns et des autres, parce qu'il y en a quand même qui sont clairement affichés, qui vont complètement à l'opposé pour lesquels on se bat depuis des années, quoi, et qui vont avoir des conséquences absolument catastrophiques sur les questions qui est le thème de consommer, consommons, etc. Donc moi je voudrais avoir un petit peu d'éclairage là-dessus. C'est quoi l'économie sociale et solidaire? Ça représente combien d'emplois aujourd'hui dans ce pays? Est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Mais encore une fois, est-ce qu'on ça fait partie d'un tout? On ne peut pas la détacher, je dirais, des autres interventions qui sont aujourd'hui nécessaires.
Si on continue le petit tour.
Trois petits compléments et une réflexion. La première sur Ambroise Croizat, le film sorti récemment, La Sociale, permet de faire un zoom sur l'importance qu'il a eue et que ça, le fait qu'il soit à la CGT a sûrement fait que ça n'a pas été mis en valeur et que ça a été repris sous accepté de Gaulle, qui était un peu l'origine de ça. La deuxième, tu parlais, Gilles, du candidat François Millon qui... envisager une loi sur l'économie sociale et solidaire, mais dans les années 70, il y a eu un secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire avec Guy Ascouette, qui était à l'époque 80,
90.
Oui, je ne sais pas trop quelle année, mais bon, c'était une négociation entre les Verts et le PS, mais il y a eu déjà des avancées là. Et quitte à ne pas faire des copains avec la CGT, je ne suis pas spécialement copain, il y a une dizaine d'années, on parlait du trou de la Sécu, on en parle encore, mais on ne parlait pas du trou d'EDF. Et le déficit d'EDF était supérieur à celui de la Sécu. Donc, à revérifier dans les chiffres, mais bon, pourquoi on fait zoom sur certaines choses et pas sur d'autres? Il y a beaucoup de gens qui sont actifs à la CGT au sein d'EDF. Ma réflexion, c'est par rapport au titre de cette matinée, « Solidarité contre le consumérisme ». Et il me semble qu'on peut être aussi solidaire et consumériste. Bon, vous avez dû réfléchir dans l'organisation un peu à ces titres-là, mais au Couronnerie, par exemple, il y a un magasin Système U avec à côté le logo Coop Atlantique, parce que c'est géré par la Coop Atlantique. Est-ce que les gens viennent dans ce magasin parce que c'est une coopérative? Ou est-ce que c'est parce que c'est un supermarché et qu'ils iraient chez Carrefour, puisqu'avant, Coop Atlantique avait un contrat avec Carrefour qu'ils ont cassé, parce que Coop Atlantique, qui a son siège à Sainte, et se sentait trop lésé, et ils ont obtenu avec les avocats de casser le contrat avec Carrefour qui fournissait à la centrale d'achat Coop Atlantique. Mais je signale qu'à Coop Atlantique, il y a un service éducatif, avec trois personnes, j'ai travaillé avec Marie et Régine à l'époque, mais ce service-là, qui était orienté vers les consommateurs pour leur dire ben, « il y a peut-être ça qui est plus intéressant que ça, etc. et vous êtes libre de choisir », était en permanence remis en question par les dirigeants de Coop Atlantique en disant « ouais, c'est quand même un service avec des moyens qui seraient peut-être plus judicieux d'utiliser ailleurs ». Il y a toujours cette pression par rapport aux chiffres d'affaires, etc. Et dernière remarque, quand Gilles, tu mets en évidence les trois domaines de loisirs, sport, tourisme et culture, ben on parle d'industrie culturelle maintenant. Tourisme, c'est relié, il y a eu une négociation du temps de Laurent Fabius pour que ça, dans le cadre du... chapeauté, le secrétariat du tourisme était chapeauté par le ministère
des affaires étrangères
parce que c'est du business. Et quant au sport, alors bon, il y a ceux qui font du jogging, je suis d'accord, et puis il y a des footballeurs qui sont payés le plus d'entre eux, là, j'ai fait le calcul, 230 000 euros par jour et qui applaudit par des smicards qui vont le voir sur le stade. Et
les chômeurs,
pour finir, je dirais que il faudrait peut-être, pour être un peu moins consommateur, moins addict à des médias qui nous foutent en permanence dans la tête qu'il faut être, qu'on sera plus heureux en achetant plus de produits avec TF1, RTL et autres, qui ont des spots publicitaires coupés par des émissions, ou l'inverse. Mais je constate qu'il y a peu de télévisions locales, il y en a eu, mais elles ne tiennent pas le coup, alors que ces télévisions locales avaient pour objet, ou des radios locales, qui avaient pour objet de favoriser une démarche éducative, participative, etc. Mais on est quand même dans cette tendance consumériste et chacun chez soi.
Oui, effectivement, je voulais aussi mentionner effectivement le film La Sociale de Gilles Perret, qui est un très beau film sur la sécurité sociale, sur une réhabilitation de la mémoire d'Ambroise Croizat et puis aussi de l'efficacité du système de sécurité sociale. C'est extrêmement bien démontré. Donc voilà, c'est donc je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. Moi, j'avais une question aussi sur, par rapport à certaines remarques qui avaient été faites sur l'économie sociale et solidaire, qui est un secteur en croissance, qui crée des emplois, puis qui a fait l'objet d'une redéfinition politique. Il me semble qu'il y a malgré tout une difficulté sur cette question des emplois dans l'économie sociale et solidaire. C'est, on pourrait dire, la qualité des emplois, c'est-à-dire bon, à la fois plutôt des emplois assez précaires, peu rémunérés par rapport à l'autre secteur privé marchand. Et puis c'est aussi un secteur d'emploi sans doute qui repose beaucoup sur du travail gratuit, c'est-à-dire du travail bénévole. C'était aussi... Je ne sais pas trop quelle est ma question en fait, mais c'est comment souligner cette espèce de contradiction où consommer autrement intervenir autrement dans toute une série d'activités nous conduit à nous engager dans du bénévolat et en même temps à produire une richesse dont les travailleurs du secteur social et solidaire n'en tirent pas profit ou bénéfice, enfin ou pas complètement, voilà.
Non, je voulais d'abord remercier vraiment très 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 fort les deux intervenants qu'on fait un lien entre l'histoire et aujourd'hui qui est vraiment très très utile pour nous tous. Une petite réflexion en vous écoutant, et du coup c'est un peu une question aussi par rapport à l'optimisme et au pessimisme, à ce qu'on a dit. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, Alain Perrotte, sur le fait que nos anciens ont gagné des batailles à des moments qui étaient aussi difficiles que les nôtres. Ce que je retiens quand même de votre exposé à tous les deux, c'est que c'est que les grands moments, que ce soit 1840 en Grande-Bretagne ou 1936 en France ou la sortie de la guerre, etc., c'est quand même des périodes où il y a des conflits sociaux majeurs, où il y a vraiment une intervention politique des travailleurs, hein, quelle que soit la forme que ça prend. On n'est pas tout à fait là-dedans en ce moment. Guattari parlait des années d'hiver dans les années 80, qu'on traversait des années d'hiver. On est vraiment dans des années très 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 glaciales en ce moment de ce point de vue-là. Et du coup, c'est un petit peu une question par rapport à l'économie sociale et solidaire, parce que il me semble, mais je me trompe sans doute, hein, mais mes réticences par rapport à des initiatives comme celle-là, c'est que justement, elles me semblent, pour la plupart des gens que je connais participer à ça, assez déconnectées d'un projet général de transformation de la société, de prise du pouvoir, ou en tout cas de se poser la question du pouvoir du côté des travailleurs. Donc c'est un petit peu à tous les deux une question par rapport à ça, parce que oui, il y a beaucoup d'optimisme dans vos deux exposés, parce que justement, regardons l'histoire et regardons le fait qu'en 1840, alors qu'il se faisait tuer dans les manifestations, hein, 20 ans avant, il y avait eu les ludites, etc., etc., 1900, enfin, la période de la guerre, c'est quand même pas très bon. Mais, donc oui, il y a de l'espoir là-dedans, mais il y a aussi... même dans Food Cop et les expériences aux États-Unis, hein, surtout aux États-Unis, la volonté de transformation politique et sociale des États-Uniens est quand même bien, bien, bien limitée et depuis des décennies.
Alors, on m'avait demandé de faire une intervention sur l'économie sociale à partir de l'exemple de la Sécu. Si on m'avait dit à partir d'EDF, j'aurais fait EDF. Qu'on s'entende bien, quel que soit... personnellement, mais je crois qu'on a quand même un peu évolué dans notre organisation syndicale, on n'est pas axé sur la représentativité syndicale de telle ou telle entreprise. Et à EDF, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur ce qu'elle a réalisé, il y a des choses à dire sur la façon dont elle est gérée aujourd'hui, qui fait qu'on va payer je ne sais combien de milliards à un truc qu'on va fabriquer en Angleterre. Hein, 22 milliards, me dit Bertrand. Donc, on est d'accord là-dessus, mais n'y voyez pas, comment dirais-je, le fait que notre organisation est très bien implantée à EDF et que c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Non, c'est que c'était pas l'objet de, enfin, la consigne qu'on m'avait donnée. Pourquoi je n'ai pas parlé du film La Sociale, c'est que justement j'ai pas voulu, même si j'ai beaucoup parlé du Parti communiste et de la CGT, parce que c'est une réalité dans l'histoire, le rôle qu'ils ont tenu, mais j'en ai pas parlé parce que j'ai pas voulu être partisan par rapport au film, alors que je participe avec Gilles. On nous invite à des interventions après, donc si j'en ai pas parlé, c'est vraiment parce que j'ai pas voulu mettre l'accent. Je tiens quand même à vous signaler que l'Institut d'Histoire Sociale CGT de la Vienne organisera à partir du film La Sociale un grand débat sur la protection sociale dans le deuxième semestre. On n'a pas encore fixé la date, mais on compte le faire et on voudrait que pour cela qu'il y ait le maximum d'énergie. Alors je suis d'accord avec vous, l'optimisme je voudrais dire qu'il est devant nous. En même temps, je suis bien obligé de constater que c'est l'histoire qui doit nous donner toutes les raisons d'être optimiste, parce que autant la période qu'a parlé Gilles concernant le début des coopératives, enfin, je ne sais pas si vous vous signalez, mais les premières lois sur la protection sociale, elles sont anglaises. Et le mouvement coopératif est anglais. Ça veut dire que les Anglais, mine de rien, même si on ne les aime pas quand ils nous battent au rugby, ça n'empêche qu'ils avaient une conscience certainement sociale et de classe beaucoup plus développée. Enfin, antérieurement à nous, et il faut. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait pas que les Français se prennent pour un peuple révolutionnaire, même s'ils avaient réussi 1793. Le seul truc de bien en 1789, c'est qu'on a coupé la tête du roi. Même si je suis contre la peine de mort, c'était le symbole qu'il fallait faire pour changer de société. C'était pas voilà. Hein. Moi, je veux être optimiste pour l'avenir. D'abord, parce que c'est pas moi qui dois le porter, l'optimisme. Moi, j'arrive à 70 ans. Si vous avez vu La Sociale, alors je dis pas que je suis comme mon camarade qui est dans La Sociale, parce qu'il a 97 ans, qui est décédé l'année dernière, d'ailleurs. Mais, par rapport à lui, je suis quand même pas très éloigné de la porte du four, quoi. Hein, si je reprends son argument, mais c'est un argument qu'il avait développé beaucoup plus que ceux qui doivent porter aujourd'hui l'avenir de la sécurité sociale, c'est les jeunes, c'est les plus jeunes que moi. Moi, je suis invité, j'aurais préféré que ce soit un militant beaucoup plus jeune qui s'y attelle à cet exercice. Parce que ça aurait une signification par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce que vivent les jeunes dans la société. Mais quand je dis les jeunes, c'est tous les actifs dans la société d'aujourd'hui. Avec moi, je fais partie de l'âge d'or de la protection sociale. Je suis né en 1948. En définitive, mes parents ont. Je suis un enfant de la Sécu, quoi. Un enfant de la Sécu avec les allocations, avec les remboursements de frais, avec les vacances, voilà. Et des choses que l'on avait à mon époque, que l'on n'a plus aujourd'hui, ou tout du moins qui sont plus restreints. Et je préférerais qu'aujourd'hui, que les actifs, moi je me bats dans mon organisation syndicale pour que les syndicats prennent en charge le problème de la protection sociale. Pourquoi ? Parce que le problème de la protection sociale, en termes de pouvoir d'achat, c'est entre 30 et 50% du salaire total du salarié. Et quand on s'occupe simplement de l'augmentation du salaire net, et qu'en même temps, on nous pique sur le salaire socialisé, ça veut dire que notre salaire, il baisse. Et si on n'est pas en capacité, syndicalement, mais aussi comme citoyen, d'avoir en tête cette réalité, on va effectivement vers une incompréhension totale sur le financement. Ça, c'est évident. Et moi, je veux être optimiste parce que je travaille pour que les jeunes prennent ma place. Hein, il y en a quelques-uns, là, j'en vois, des jeunes de mon organisation. Et ce que je souhaite, c'est que l'Institut d'Histoire Sociale soit un repère. C'est-à-dire là où on vient chercher comment ça s'est passé. Mais que pour parler aux jeunes, je ne suis pas le mieux placé, quoi. Celui qui est dans la galère aujourd'hui, qui a des CDD, qui est obligé d'aller travailler le dimanche, qui n'a pas de mutuelle parce qu'il n'a pas les moyens de se les payer, moi je peux lui expliquer, mais en même temps je ne serai pas forcément compris dans mon discours, quoi. Ou je ne trouverai pas les mots pour le dire. Donc nous devons travailler les uns et les autres dans notre milieu, dans nos milieux, pour que les gens qui sont autour de nous, ils se bougent un peu. Alors, je dirais pas la formule complète parce que ça serait pas très délicat, mais voilà, il va falloir y aller au charbon. Il va falloir y aller pour reconquérir. Hein, c'est pas, on n'a pas tout perdu, mais on est en train d'en perdre. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Et si on n'est pas mobilisé, c'est sûr. Mais j'ai aucune crainte là-dessus.
C'est des vastes sujets. Sur ESS et emploi, d'abord. L'économie sociale et solidaire, en gros, c'est 10% des emplois en France, de la totalité des emplois, privés et publics confondus. Donc c'est tout sauf négligeable. Et c'est évidemment dans notre région beaucoup plus important. Hein, on est entre 12 et 13%, notamment, je rappelle, le poids des mutuelles d'assurance à Niort. Hein. Mais il y a des territoires où c'est encore plus important. En Lozère, par exemple, c'est quasiment 28% de l'emploi total qui est d'économie sociale et solidaire. Mais les Deux-Sèvres arrivent en quatrième position. Hein. Donc il y a des territoires en France où l'ESS, c'est 10% en moyenne, mais ça peut être beaucoup plus que ça. Alors, ce que je voudrais dire par rapport à ça, est-ce que c'est une solution par rapport à tous les problèmes d'emploi ? Non, je ne pense pas. Mais dans les mouvements actuels de l'ESS, ce qu'on voit pousser, c'est deux choses. Premièrement, c'est les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui ont été créées par les écologistes à l'époque du gouvernement Jospin. Justement, tu parlais de Guy Ascouet, etc. C'est une création de mémoire, c'est une loi de 2002, mais préparée à ce moment-là, et c'était la volonté des écologistes. Je rappelle juste que les sociétés coopératives d'intérêt collectif, hein, c'est des sociétés, des coopératives multipartenariales, c'est-à-dire que vous trouvez à la fois les salariés, vous trouvez à la fois les usagers, donc c'est déjà un mix de producteurs et de consommateurs, plus vous pouvez trouver les collectivités publiques, plus vous pouvez trouver les fournisseurs, etc. C'est à travers tout le discours néolibéral de parties prenantes, l'intégration des parties prenantes au sein même de l'entreprise, c'est le principe des SIC. Je ne développe pas ça, mais bon, il y a des origines à la fois québécoises et italiennes derrière ça. Et c'est les écologistes qui ont vraiment poussé la chose. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une explosion du nombre de SIC en France, à la fois sur des secteurs d'activité extrêmement innovants, du type tiers-lieu, du type plateforme de commercialisation, etc., et sur des secteurs où on ne les attend pas, des secteurs sociaux. Dans la Vienne, dans Deux-Sèvres, il y a une maison de retraite qui était sous un statut capitaliste traditionnel et qui est repris sous la forme d'une SIC. Il y a des travailleurs sociaux qui se mettent en SIC, hein, autour de l'accueil des jeunes enfants, etc. Il y a vraiment un foisonnement là-dessus, ce qui est vraiment particulier. Deuxième exemple de foisonnement de l'ESS, c'est l'expérience territoire zéro chômeur de longue durée, avec 10 territoires expérimentaux en France. Et alors, même s'il y a des critiques à faire par rapport à ça, là aussi, on a des choses qui sont en train de... C'est sous l'impulsion de ATD Carmonde. Hein. C'est ATD Carmonde qui pousse la chose. On a vraiment des choses en matière d'emploi qui sont extrêmement intéressantes aujourd'hui en France, hein, et qui essayent de trouver des solutions vraiment globales, je dirais, à la fois du point de vue de l'emploi, du point de vue politique et du point de vue territorial. Deuxième élément, peut-être, sur... que j'ai noté sur solidarité et consumérisme. À propos de l'exemple de Super U, bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis Benoît. Bon, simplement, il faut bien voir que Super U est dans le monde de la grande distribution et que les contraintes sont telles qu'ils ont, les points liés que Coop Atlantique, pardon, les points liés par rapport au système U. Ce que tu as dit, si on vient à l'origine des coopératives de consommateurs, comme je vous l'ai dit, il y avait une réflexion sur la qualité des produits. Et sur par exemple le pain, le lait, etc. C'était pas du tout une interrogation en termes de enfin pas de santé mais et d'environnement à l'époque. Mais il y a des choses autour de ça de consommer autrement. C'était déjà une problématique même si c'était d'autres sujets au 19e siècle hein, sur la qualité de ce qu'on consomme et sur le rapport prix-qualité, hein, la notion de juste prix. Et la notion de, au XIXe siècle, on parlait de commerce véridique. Le terme de véridique est employé pour dire véridique dans le sens on veut être sûr que ça soit le bon produit, quoi. Et il y avait aussi toute une éducation à la consommation. Je vous parlais des ateliers cuisine, par exemple, de Rochdel. Donc il y avait déjà ça. Bon, il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui, mais il y a d'autres mouvements qui le portent. Sur les conflits, le rôle des conflits sociaux, ça c'est indéniable, mais sur la critique qu'on peut faire à l'ESS de dire, bon, sur le projet de transformation politique et sociale, c'est un peu léger, hein, c'est en gros chacun fait dans son coin, et puis on trouve des solutions pour nous ou pour notre territoire, et puis on n'a pas de projet de transformation sociale. Le problème, c'est qu'il y a, mais bon, ça c'est Bertrand connaît mieux ça que moi, c'est la rupture historique entre les syndicats et les courants coopératifs et mutualistes à partir de la fin du 19e siècle hein, ou début 20e, et qu'on n'a jamais réussi à refédérer. C'est-à-dire que, en fait, c'est très curieux, par exemple, quand on prend les mutuelles de santé, vous retrouvez dans les dirigeants des mutuelles des santé des syndicalistes, vous retrouvez des personnes engagées dans le mouvement associatif, etc., mais ils ne mélangent pas les casquettes. C'est les personnes qui sont dans les différents lieux, mais ce n'est pas les organisations. Voilà. Je prends juste un exemple, parce qu'on a parlé des comités d'entreprise. Les comités d'entreprise ne font pas partie de l'économie sociale et solidaire. La loi ne les a pas intégrés dans l'économie sociale et solidaire. C'est hors économie sociale et solidaire, parce qu'elles n'en respectent pas certains principes. Il y a une chambre régionale d'économie sociale et solidaire qui a intégré les comités d'entreprise depuis une dizaine d'années. C'est la chambre de Corse. C'est la CRES Corse qui a intégré les comités d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plein de villages vacances qui sont notamment gérés par des organisations liées à la CGT et que donc ils ont fait pression pour y rentrer. Et c'est la seule région que je connaisse où il y a une alliance syndicat économie sociale et solidaire. Bon, alors, il y a aussi des questions de l'autonomie et de la langue hein, derrière ça. Et il y a également des choses qui sont assez intéressantes sur le Pays basque qui se passent. En termes de, alors pas sur les syndicats cette fois-ci, plutôt du point de vue politique et du point de vue écologique, mais il y a des choses intéressantes. Donc il y a des endroits où il y a des alliances qui sont en train de se construire, alors sur un mode qui est complètement différent du 19e siècle, sur d'autres thématiques. Et puis pour finir sur la concurrence salarié-bénévole peut-être, je t'invite à aller voir hein, tous les travaux que fait par exemple Maud Simonet et puis Mathieu Elie à Nanterre hein, là-dessus. Je suis assez partagé par rapport à ça. À la fois on demande aux salariés, alors c'est dans un double sens, et d'un côté on demande aux salariés de faire du militantisme et de ne pas compter leurs heures en leur disant regardez les bénévoles à côté ils ne sont pas payés, pourtant ils le font, et puis vous êtes dans l'économie sociale et solidaire, donc ne raisonnez pas comme un salarié classique, donc ça permet de faire ça. Et de l'autre côté on demande aux bénévoles de se professionnaliser, de suivre des formations, etc., et d'être capable de jouer le rôle d'un salarié. Donc je suis tout à fait d'accord là-dessus. Simplement, ce qu'il y a de révolutionnaire dans l'économie sociale et solidaire, c'est de dire, en fait, l'économie, c'est pas que l'économie marchande et non marchande, c'est aussi l'économie non monétaire. C'est l'économie non monétaire, c'est-à-dire c'est une économie qui est fondée sur la gratuité à la fois du produit et sur la gratuité de la production du produit, c'est-à-dire qu'on ne paye personne. Et c'est ça le défaut de la loi ESS, c'est d'avoir pris l'économie sociale et solidaire au sens économique de la comptabilité nationale, c'est-à-dire économie marchande et non marchande, mais en excluant complètement l'économie non monétaire. Et c'est pour ça que je parlais de Paul Lafargue. Et on est vraiment, pour moi, sur un projet communiste de dire à terme, c'est l'abolition du salariat, et c'est une société auto-organisée de production et de consommation qui est complètement révolutionnaire. Voilà. Et ça, c'est quelque chose. Bon, c'est l'associationnisme de 1848, c'est les projets de socialisme utopique, etc., qu'on peut remettre derrière. Mais je crois que ça, c'est important. Et donc, bon, l'opposition bénévolat-salarié, je la vois bien. Mais également, c'est important de souligner que l'économie sociale et solidaire, dans ce projet révolutionnaire, cherche à complètement dépasser cette opposition. Voilà.
Alors, avant de vous... Oui, alors... Oui, ça va être sans doute la grande déferlante, on peut l'imaginer. Et voilà, en tout cas, les liens qu'on tisse sont d'autant plus importants dans ce contexte pourri, je pense, même si on fait chacun ce qu'on peut à son échelle, mais c'est important de le faire. Je dis un mot sur la suite du programme pour vous inviter. J'espère qu'il y aura un nouveau public encore cet après-midi, mais que vous resterez aussi le plus possible, puisque... On va reprendre, hier soir, on a eu une projection d'un film improbable, mais qui fait vraiment partie de la culture qu'il faut avoir sur la question de la critique du capitalisme et de la consommation en particulier. On a eu auparavant une conférence dans l'après-midi, et donc cet après-midi, on a des étudiants qui se sont saisis des textes de Debord et qui vont venir nous les présenter. Donc voilà, à la fois sur la suite de la réflexion qu'on a eue ensemble, et puis sur l'intérêt que ça a aussi de nous, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum, de faire participer des gens, et notamment des jeunes, à la préparation du festival. Je vous invite à être là à 14h.
Alors, juste pour préciser, ils ne vont pas vraiment vous présenter les textes de Debord, parce que
non.
Non, mais parce que ça risque d'en décourager qui se sont déjà
fait d'accord.
Le film hier.
Ouais, c'est vrai. Dit comme ça.
Ils ont construit en cours une présentation
à leur manière. Voilà, encore mieux. Encore mieux. Et encore merci à tous les deux.